السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا إن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عفوا. أما بعد، nous sommes aujourd'hui inshallah ta'ala le 12 Dhul-Hijjah 1427. C'est-à-dire bi'idhni azza wa jalla lundi 1er janvier 2007. Ça, inshallah ta'ala, c'est le 17e cours. Le 17e cours de fiqh bi'idhni azza wa jalla. Aujourd'hui, on va parler inshallah ta'ala on va continuer ce qu'on a commencé sur le adhan. On va parler des règles de la iqama bi'idhni azza wa jalla. On avait dit que le adhan, il était ou bien 15 mots ou bien 19 mots. On avait dit qu'il était ou bien 15 mots d'après le hadith de Abdullah ibn Zayd, ou bien 19 mots d'après le hadith de Abi Mahdoura. Et on avait dit que la sunna, c'est de faire des fois 7 adhan et des fois l'autre. Comme ça, en général, quand il y a quelque chose qui est venu de plusieurs sortes, des fois on fait cette sorte, des fois on fait l'autre sorte. Comme ça, dans la salat, dans les tisbih, dans les doigts, toujours on change bi'idhni azza wa jalla. De toute façon, on change pour gagner le ajr, pour appliquer la sunna, pour faire des choses qu'on n'a pas faites. Et deuxièmement, pour ne pas insan yamal, yani insan yamal, je sais pas comment on dit yamal en français. Ensuite, yani toujours la même chose. Mais quand il change, comme ça, yani il trouve inshallah ta'ala que c'est quelque chose de nouveau. Naam. Ensuite, j'ai dit que ça, il se lasse. Naam, il se lasse. Toujours la même chose, il se lasse. C'est pour ça que quand il change bi'idhni azza wa jalla, il se trouve bi'idhni Allah que c'est toujours quelque chose de nouveau. Tayyib. Aujourd'hui, inshallah ta'ala, on va commencer directement par l'iqama. Et on va revenir maintenant un peu plus tard, dans une demi-heure inshallah, on va parler encore du adhan, le adhan de la femme et comment ça se fait, etc. C'est fait l'iqama. Comment qu'on fait l'iqama? Maintenant on a fait l'adhan, maintenant on veut faire l'iqama. يقول المؤلف على رحمة الله إفراد كلمتها إلا التكبير الأول والآخر. إفراد كلماتها إلا التكبير الأول والآخر. نعم، كيف ذلك؟ نقول الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة. الله أكبر لا إله إلا الله. Vous avez remarqué, toutes les choses on dit seulement une fois. Qu'est-ce qu'on dit deux fois? On dit seulement Allahu Akbar deux fois, et قد قامت الصلاة deux fois. Toutes les autres choses une seule fois. Je répète donc Allahu Akbar deux fois. Ensuite أشهد أن لا إله إلا الله une fois. أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح. Ensuite deux fois قد قامت الصلاة Allahu Akbar la ilaha illa. Conclusion, yani deux fois Allahu Akbar et deux fois قد قامت الصلاة. Tous les autres mots seulement une fois. Mais il est possible aussi le début, au lieu de le doubler, au lieu de dire Allahu Akbar, il est possible de le quadrupler quatre fois. Et les autres choses qu'on faisait seulement une fois, on les double. Donc ça va donner la deuxième sorte de l'iqama ainsi. الله أكبر والله أكبر، الله أكبر الله أكبر، وفي كثرة أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حيا الصلاة حيا الصلاة، حيا للفلاح حيا للفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. Donc cette deuxième sorte bien sûr qui est un hadith sahih. Et on commence par quatre fois Allahu Akbar, Allahu Akbar, et tous les autres mots, les autres termes, tous deux fois. Sauf quoi? Sauf la ilaha illallah. Sauf la ilaha illallah, on termine une seule fois. On dit une seule fois la ilaha illallah. طيب. ماذا يقول من يسمع المؤذن? Quelqu'un qui entend le mu'adhin, qu'est-ce qu'il dit? Il doit dire comme il dit. Il doit dire comme il dit. Sauf lorsqu'il dit haya as-salat haya al-falah. Il dit la hawla wa la quwwata illa billah. La hawla wa la quwwata illa billah. Donc le mu'adhin, pardon, quand il dit Allahu Akbar, Allahu Akbar, on dit Allahu Akbar, Allahu Akbar. Il dit shahadun la ilaha illallah, on dit shahadun la ilaha illallah. Ensuite il dit shahadun Muhammad Rasulullah, on dit shahadun Muhammad Rasulullah. Ensuite il dit haya as-salat, on dit la hawla wa la quwwata illa billah. Haya as-salat, la hawla wa la quwwata illa billah. Haya al-falah, la hawla wa la quwwata illa billah. Haya al-falah, on dit la hawla wa la quwwata illa billah. Il dit Allahu Akbar, Allahu Akbar, on dit Allahu Akbar, Allahu Akbar. Il dit la ilaha illallah, on dit la ilaha illallah. Il est aussi permis, je l'ai cité la fois passée, de dire quand le mu'adhan dit shadun la ilaha illallah, tu dis wa ana. Ensuite il dit shadun la ilaha illallah, tu dis wa ana. Ça veut dire que c'est pas, yani c'est, quand tu dis wa ana, ça veut dire comme si tu disais moi aussi je dis shadun la ilaha illallah, yani moi aussi je dis comme toi. Certains ulama ont dit il est aussi possible de, au lieu de dire la hawla wa la quwwata illa billah, de dire exactement comme lui. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith, quiconque dit comme dit le mu'adhin. C'est-à-dire, je vais dire exactement ce qu'il dit. Il dit Allahu Akbar, Allahu Akbar, je dis Allahu Akbar, Allahu Akbar, shahadun la ilaha illallah, je dis shahadun la ilaha illallah, il dit shahadun Muhammad Rasulullah, je dis shahadun Rasulullah, il dit haya as-salat, je dis haya as-salat, il dit haya al-falah, je dis haya al-falah, et je termine avec lui. Ça aussi, ça se fait. Mais le plus courant, c'est que lorsqu'il dit haya as-salat, je dis la falah, je dis aussi la hawla wa la quwwata illa billah. طيب شيطاني إذا تذكرته نعم يوصي une sunna. C'est quoi? C'est quand le prophète se manque, qu'est-ce qu'il entend l'adhan? Je suis à la maison maintenant, j'entends l'adhan, ou je suis à la mosquée, j'entends l'adhan. Le prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith sahih bien sûr, quiconque quand il entend l'adhan, il dit أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا. Il a dit يغفر له ذنبه غفر له ذنبه. Tous ses péchés sont annulés. Quiconque entend le adhan, il dit cette phrase que je viens de dire, أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا. Il a dit غفر له ذنبه. Ses péchés s'annulent. Allah subhanahu wa ta'ala lui annule ses péchés. Aisha حفظه الله a dit سألت شيخنا الألباني. J'ai demandé Cheikh الألباني. Le hadith qui est dans Muslim, le hadith que je viens de citer qui est dans Muslim, où il est dit quiconque entend le adhan dit shahadun la ilaha illallah, etc., Allah Azza wa Jalla lui pardonne ses péchés. Il a dit hina yisma', le hadith dit quand il entend le mu'adhan. Il a dit hina yintahi am khilalihi. Celui-là il demande à Cheikh Al-Albani, il lui a dit je dis cette phrase quand il termine le adhan ou bien en plein milieu. Quand il fait le adhan, je dis cette phrase. Cheikh Al-Albani a répondu Allah yarhamo, idha lahazta anna ijabat al-mu'adhan laysat wajiba. Il dit à son élève Rawaisha, il lui a dit si tu as remarqué, suivre le adhan n'est pas une obligation, c'est seulement une sunna. Vous savez que suivre le adhan n'est pas une obligation. On a cité le délit, on va le reciter. Il a dit c'est seulement une sunna. Il a dit donc si c'est seulement une sunna, fal amru hina idin wasi', donc tu es libre de dire cette phrase où tu veux. La phrase qui est shahadun la ilaha illallah, wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu, رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا بإسلام دينا. Il a dit tu es libre de dire cette phrase où tu veux. Mais moi j'ai cherché dans un des vieux livres de Cheikh Al-Albani, qui ce n'est pas son premier livre, qui s'appelle Samr al-Mustatab. Là-bas, il a dit la sunna de dire cette phrase, c'est de la dire exactement quand le mot adhan fait le tashahhud. C'est-à-dire, j'entends le mot adhan, il dit Allahu Akbar, Allahu Akbar. Je dis comme lui, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ensuite, il répète Allahu Akbar, Allahu Akbar. Je dis Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ensuite, quand il dit Ashhadu an la ilaha illallah, ici, tu dis Ashhadu an la ilaha illallah, et tu dis la phrase que je viens de dire. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا بالإسلام دينا. الألباني الله يرحمه. Donc ce qu'il a dit ici à son élève, peut-être que son élève lui avait posé cette question avant qu'il n'écrive le livre Samr al-Mustatab. Ou bien peut-être il lui a répondu tout en oubliant qu'il avait dit dans un autre livre que, yani, on peut dire que la sunna c'est de la dire après la ilaha illa, quand dit le mu'adhin shadun la ilaha illa, ou bien autre chose. Ou bien Cheikh Al-Albani veut montrer, comme il l'a dit ici, il veut montrer que tu fasses ceci ou cela, tout est inshallah ta'ala sahih, tout est inshallah ta'ala sahih. Et tu peux dire cette phrase où tu veux. Akhir al-adhan, le adhan doit toujours se terminer par la ilaha illallah. Le adhan doit toujours se terminer par la ilaha illallah. Kitab al-Mawsu' al-Fiqhiyya. Al-Mawsu' al-Fiqhiyya al-Muyassara de Hussein ibn Aouda al-Awaija. Maintenant, quand le mu'adhin termine, qu'est-ce qu'on dit? Lui, il dit la ilaha illallah. Il doit terminer par cette phrase. Nous on dit la ilaha illallah. À la fin d'ajouter wahdahu la sharika lah. Parce qu'on doit dire comme dit le mu'adhin. Le mu'adhin qu'est-ce qu'il dit? À la fin il dit la ilaha illallah. C'est pas la peine qu'on ajoute. On dit la ilaha illallah. Ensuite, on fait la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y a différentes sortes de faire la prière. Par exemple, Allahumma salli wa sallam ala rasulillah. Allahumma salli wa sallam ala nabiyika Muhammad. Ou muhim. Tu fais la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite tu dis Allahumma rabba hadhihi ad-da'wah at-tammah wa salati al-qa'imah ati Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wab'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'adtah wab'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'adtah. On avait vu la fois passée que on ne devait pas dire innaka la tukhlifu al-mi'ad. On ne doit pas dire innaka la tukhlifu al-mi'ad, lianna hadhihi ziyadatun da'ifa, elle est faible. Comme a dit Cheikh Al-Albani, il a dit cette phrase elle est faible, elle ne se trouve pas dans un hadith sahih. Et on ne dit pas aussi Allahumma rabba hadhihi ad-da'wah at-tammah wa salat al-qa'imah, on ne dit pas ati sayyidana Muhammad, sayyidana Muhammad, non, on dit ati Muhammadan. Regardez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam c'est sayyiduna, il a dit dans le hadith sahih, il a dit ana sayyid waladu adam wala fakh, il a dit moi je suis le sayyid de tous les êtres humains. Mais ça ne veut pas dire que quand il a dit je suis le sayyid, le maître, que on doit ajouter quelque chose, on va ajouter le mot sayyid dans le adhan. Le adhan c'est une phrase ta'aboudiya, quelque chose qu'on ne peut pas, c'est tawqifiya, c'est min indillah, c'est pas tawfiqiya, c'est tawqifiya, ça vient d'Allah subhanahu wa ta'ala, ça vient du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On ne peut ni ajouter une lettre ni retrancher une lettre. Et aussi par exemple quand on fait tashahhud, on dit tahiyatullah, bon il y a beaucoup de sortes, tahiyatullah salamu alayka, ou bien on dit salamu ala nabi, on dit pas salamu ala sayyidina, on dit salamu ala nabi rahmatullah, salamu alayna wa ala ibadla salim. Donc on n'ajoute pas, certains disent salamu ala sayyidina rasulillah, on n'ajoute pas des choses comme ça. Pour les ajouter, pour un délil, pour les ajouter il faut un délil. Ensuite, Cheikh Al-Albani maintenant va donner, on l'a déjà dit, le dalil ala anna mutaba'at al-ijabat al-mu'adhdhin lis bi wajiba. Il va donner le dalil que suivre le mu'adhin quand il parle, yani je le suis, que ce n'est pas obligé de le suivre. Donnez le hadith que les sahaba radiyallahu ta'ala anhum kanu yatahaddathun, ils se parlaient, ils discutaient, hina yajlis Omar ibn Khattab ala al-minbar, quand Omar ibn Khattab radiyallahu ta'ala anhum restait sur le minbar pour faire le prêche du vendredi, ils discutaient hatta yaskuta al-mu'adhin, jusqu'à ce que le mu'adhin se taise. Donc Omar ibn Khattab radiyallahu ta'ala anhum s'assoit sur le minbar, et quand il s'assoit, lorsqu'il commence, le mu'adhin commence le adhan, c'est ça la sunna. Et pendant qu'il faisait le adhan, les sahaba, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils discutaient entre eux. Non, ils se parlaient, ils discutaient entre eux. Il a dit, c'est, yani, les sahaba ne vont pas laisser quelque chose, yani, d'obligatoire et ne pas. Il a dit, yani, ça c'est une preuve qu'il n'est pas permis, pardon, qu'il est permis de parler quand il y a le adhan. Non, il a dit, ان الصحابه رضي الله تعالى عنهم احرص الناس على فعل الخير فاذا تكلموا الامام والمؤذن يؤذن كان ذلك دليلا على عدم ماذا على عدم وجوب اتباع الامام il a dit voilà une preuve, les sahaba qui aiment beaucoup le prophète sallam, qui aiment beaucoup la sunna, si maintenant eux ils vont pas faire cette chose, ça veut dire tout simplement que ce n'est pas obligé. Si c'était obligé, c'est pas tous ils vont pas la faire, ou là un grand groupe, au moins il y a peut-être un qui ne va pas la faire, mais les sahabes en train de discuter, il a dit ça. Une preuve. Ensuite, il a ajouté un autre dalil du sahabi qui a dit Adraktu Omar wa Othman, j'ai rencontré ou là j'ai vécu au temps de Omar wa Othman, فكان الإمام إذا خرج يوم الجمعة تركنا الصلاة. Quand on voyait l'imam sortir pour faire la salat, on ne faisait plus la salat. C'est-à-dire que les sahaba radiyallahu ta'ala anhum, comme a dit Ibn al-Qayyim dans Zad al-Ma'ad, il a dit, le vendredi quand il rentrait à la mosquée, qu'est-ce qu'il faisait? Il faisait la prière. Il faisait 2, 4, 6, 8, 30, 100 nombres. Il a dit, dès que le imam rentre dans la mosquée, qu'est-ce qu'ils font? Ils arrêtent la prière. Il a dit, فَإِذَا تَكَلَّمَا تَرَكْنَا الْكَلَامَ. Ensuite il a dit, et s'il parlait, s'il commence à parler, on arrête de parler. Donc que faisait le sahaba? Les sahaba, ils faisaient la prière. Si l'imam rentrait à la mosquée, il rentrait pour faire le prêche du vendredi, il s'arrêtait de faire la prière, car il va monter sur le minbar. Et s'il commençait à parler, il se taisait. Qu'est-ce que ça veut dire? Et s'il commence à parler, ils vont se taire. Ça veut dire s'il ne parle pas, c'est qu'il y a le mu'adhan qui fait le adhan, donc eux ils parlaient. Voilà le dalil. Donc eux ils parlaient jusqu'à ce que le imam commençait le prêche. Vous savez, la sunna du imam le vendredi, c'est de ne pas être dans la mosquée avant yani l'heure. Même s'il est, il reste dans une chambre là. Et la sunna c'est de rentrer directement sur le minbar, sans faire les deux prières de tahiyat al-masjid. Imam le vendredi ne fait pas tahiyat al-masjid. Pourquoi? La sunna c'est qu'il rentre directement, il monte sur le minbar. Naam, il monte sur le minbar. Maintenant, l'adab allati yanbaghi an yattasifa biha al-mu'adhdhin wa ma yaf'alu 'inda al-adhan. Quelles sont les règles que le mu'adhdhin doit respecter? Quand quelqu'un fait le adhan, quelles sont les règles qu'il doit respecter? Maintenant, quand je dis le adhan, je parle en général de l'homme et de la femme. Awalan. أن يحتسب في آذانه ويبتغي به وجه الله سبحانه وتعالى ولا يطلب الأجر. Premièrement, il doit faire le adhan en la cause de Allah سبحانه وتعالى. Il veut le visage de Allah سبحانه وتعالى. Il veut le paradis. Il veut le ajr. Il doit avoir cette intention. La première intention, c'est de le faire en souhaitant le ajr. نعم. Il a dit des hadiths Uthman. À cause du hadith de Uthman radiyallahu ta'ala anhu, n'am Uthman ibn Abi al-As radiyallahu ta'ala anhu, qu'est-ce qu'il a dit? قال إن آخر ما عهد إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أتخذ مؤذنا لا يأخذ على آذانه أجرا. نعم, حديث صحيح عن الشيخ الألباني, صحيح ابن ماجه. Uthman ibn Abi al-As radiyallahu ta'ala anhu, il a dit, la dernière chose que j'ai entendu du prophète صلى الله عليه وسلم, c'est qu'il m'a fait une wasiya. Qu'est-ce qu'il m'a dit? Il m'a dit, écoute, si tu prends un muadhan ou la prends un muadhan, à condition qu'il, yani, choisis-le, il ne demande pas de l'argent. Il ne demande pas d'argent pour le adhan. Naam. Donc, les ulama ont dit, donc, yustahab. Préférence que quelqu'un ne demande pas l'argent pour le adhan. Il le fait en le visage d'Allah subhanahu wa ta'ala. On avait cité le hadith qui dit que, qui est sahih, qui dit que celui qui fait le adhan, yani, pour Allah, bien sûr, pas pour l'argent, celui-là, yani, il aura un long cours, yom al-qiyama. Car les mu'adhinin, ceux qui appellent à la prière, auront de longs coups yom al-qiyama. Ils ne seront pas comme les autres gens, mais ils auront des longs coups qui les différencient des autres pour voir que ce sont, c'était ou là, c'était les mu'adhinin. Naam. On avait cité un hadith Abdullah ibn Omar, radiallahu ta'ala anhu, que rajulan ata. فقال له أحبك في الله. يا كل كان كيفون يا عبد الله بن عمر أحبك في الله. الله بن عمر رضي الله تعالى عنه répondu. Il a répondu. وأنا أبغضك في الله. Quant à moi, je te déteste في الله. Il a dit ولما. Pourquoi? Il a dit لأنك تلحن في الأذان. Tu te trompes dans ton أذان. Tu retranches des mots, tu ajoutes des mots, tu fais l'écho, tu fais ça. Tout ça c'est لحن. وتأخذ عليه أجرا. Ensuite, tu prends de l'argent pour le أذان. Tu prends de l'argent pour le adhan. Il lui a dit donc, moi, je te hais en Allah. Parce que, comme on aime en Allah, on a un ajr. Quand on hait, on déteste quelqu'un en Allah, on a aussi un ajr. C'est la même chose. Ça, c'est le premier délit. Pardon, c'est la première règle. On doit faire le adhan avec l'intention d'avoir des ajr et non pas l'intention d'avoir des dollars et des euros, mais avec l'intention d'avoir le hajj, inshallah ta'ala. Maintenant, les ulama, comme Cheikh Ibn Uthaymeen, et si ce n'est pas tous, disent que de notre temps, c'est possible que le mu'adhan, on lui donne de l'argent. Mais à deux conditions. La première, il faut qu'il laisse toujours son intention qu'il le fait pour Allah. La deuxième, c'est l'état qui lui donne. Il a dit, quand l'état te donne, tu peux prendre. Parce que tous on a droit à l'argent qui est chez l'État. L'État, dans un pays musulman, l'État, quand par exemple les gens donnent la zakat, ils la donnent à qui? À l'État. La zakat lui-même. Et l'État, qu'est-ce qu'il fait? Il donne par exemple une part aux pauvres, aux nécessiteux, etc. Donc normalement, l'État, il donne au mu'adhan. Il lui dit, toi, tu ne peux pas travailler, c'est difficile, on a besoin de toi, tu vas rester à la mosquée. Et c'est nous qui te payons. Ibn Uthaymeen Allah rahmahu a dit, dans ce cas, il est halal. Son argent est halal. Pourquoi? Parce que premièrement, il doit laisser l'intention. Deuxièmement, c'est l'état qu'il lui donne. Et troisièmement, une chose aussi importante, il lui donne pas en contrepartie du adhan, mais il lui donne en contrepartie de l'avoir emprisonné. Naam, il t'emprisonne dans la mosquée, tu sors pas et tu peux pas aller travailler. Il te dit, reste ici, ne travaille pas. Et c'est moi qui te donne une paye en revanche. En ce sens, c'est permis pour le mu'adhin de prendre de l'argent. C'est à peu près aussi pour quelqu'un qui apprend aux gens le Coran avec de l'argent. Ou bien quelqu'un qui fait la prière, qui est imam, on lui donne de l'argent. S'il dit, non, moi je ne fais pas la prière si vous ne me donnez pas l'argent. Ou bien, je ne vous apprends pas le Coran si vous ne me donnez pas de l'argent. Celui-là, bien sûr, il rentre dans quelque chose de pas bien. Mais lui, il faut qu'il fasse l'intention qu'il est prisonnier. Il ne peut pas aller faire un autre travail, il doit rester à la mosquée emprisonné. C'est en ce sens qu'on lui donne cet argent en contrepartie. Et celui qui apprend les gens le Coran et il prend aussi l'argent, ce n'est pas à cause du Coran. Ce n'est pas à cause que, je t'ai dit, répète, Alhamdulillah, Rabbil Alamin, mais à cause des juhouds que je fais, des efforts. Je suis en train de faire des efforts. Je me suis fatigué, je te dis répète, je te corrige, je commence à suer, je commence à avoir mal à la tête, je commence à m'énerver, tout ça, à cause de cela, on va me donner de l'argent. Et pas à cause de, je te dis cette soirée et cette soirée et cette soirée. Il y a une grande différence entre les deux. Non. La deuxième règle, le mot Edwin doit être à la tohr. Yani doit être. Quand je dis à la tohr, ça veut dire au moins, il ne doit pas être en janaba. Mais, on est en train de parler des choses conseillées, mustahab, c'est qu'au moins, c'est que, de préférence, il doit aussi avoir des petites ablutions. C'est permis à quelqu'un, même qui a la janaba, même avec la janaba, c'est permis de faire le adhan. Il n'y a aucun délit qui dit c'est interdit. C'est interdit de faire la salat. Et le adhan, c'est possible. Mais, moi, on parle maintenant quelles sont les choses qui sont conseillées. Donc, il est conseillé qu'il ne soit pas en janaba et qu'en plus de cela, il est conseillé qu'il fasse des petites ablutions. Qu'il fasse des petites ablutions. Quel est le délit ? Le hadith al-Muhajir ibn Qunhud, an, radiyallahu ta'ala anhu, أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول. Donc on va donner le dalil que pour faire le adhan, de préférence, on doit faire des petites ablutions. Je dis de préférence, ce n'est pas obligé, pour que vous compreniez bien. On parle de préférence. Parce que si je le fais, j'ai un ajr, si je ne le fais pas, j'ai pas de ism. Donc le dalil, c'est que il y a un compagnon, radiyallahu ta'ala anhu, qui s'appelle Al-Muhajir ibn Qunfud. Il a dit, je suis allé chez le prophète صلى الله عليه وسلم. Je l'ai trouvé en train d'uriner. Salam alayh. Il a dit, je lui ai dit salam alaykum. Ou salam alaykum wa rahmatullah. Il a dit, falam yarud alayhi hatta tawadda'a. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne lui a pas dit wa alaykum salam wa rahmatullah. Il s'est tu. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est allé faire des ablutions. Ensuite, ensuite il s'est excusé, le prophète Aïssam s'est excusé auprès de ce compagnon, et qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a dit, inni karihtu an adhkura Allah illa ala tahr ou qala ala tahara, rawa Abu Daoud wa huwa hadithun sahih sahou Cheikh Al-Albani. Le prophète Aïssam lui a dit, je n'aime pas, ou là, j'ai pas aimé, ou là, je déteste que j'invoque Allah subhanahu wa ta'ala sans que j'ai des petites ablutions. Non, je déteste, j'aime pas que j'invoque Allah subhanahu wa ta'ala sans que je n'ai des petites ablutions. Pourquoi? Où est-ce qu'il allait invoquer Allah? Il allait invoquer Allah en disant wa alaykum salam wa rahmatullah. Parce que salam, c'est un nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, l'un de ses noms. Non, l'aziz al-rahman al-ghafour, c'est salam aussi, quddus. Donc Allah subhanahu wa ta'ala s'appelle salam. Il ne veut pas, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il ne veut pas invoquer son nom sans avoir fait des petites ablutions. Donc vous remarquez que celui qui invoque Allah subhanahu wa ta'ala avec les petites ablutions, c'est mieux que celui qui l'invoque sans les petites ablutions. Mais il est permis de l'invoquer sans les petites ablutions. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith sahih, s'est levé une fois, en plein milieu de la nuit, s'est levé. Il a commencé à faire le siwak. Quand il se levait, sallallahu alayhi wa sallam, il commençait direct par le siwak et il lisait le Coran. Inna fi khalqi samawati wal ard wa ikhtilafi al-layli wan nahar la ayatin li uli al-bab. Il était en train de lire ce verset alors qu'il venait de se lever du lit. Et quand on se lève du lit, on n'a pas les ablutions. Donc c'est un délit qu'on peut, c'est un Coran même. Il était en train de lire le Coran. Et le Coran, c'est plus grave que dire à quelqu'un alaykoum salam wa rahmatullah. Et pourtant, qu'est-ce qu'il a fait? Et pourtant, il l'a fait sans quoi? Sans petites ablutions. Mais, comme je venais de dire, c'est pour montrer. On veut montrer quelle est la meilleure des choses. Et quelle est la meilleure des façons. Naam. Qala Sheikhuna, la Weija, hafidahullah, qu'est-ce qu'il dit? Il a dit, قال لي شيخنا الشيخ الألباني مادي en personne. D'ailleurs, entre parenthèses, vous avez remarqué, c'est pour ça que j'ai choisi ce livre pour le faire le fiqh. Il a 5 ou 6 tomes. J'ai choisi ce livre parce que il y a beaucoup de choses où Cheikh Al-Albani lui a dit ces choses-là. Les a dit à cette personne, celui qui a écrit ce livre, personnellement, des choses personnelles comme ça. Vous posez des questions personnelles, lui répondez des choses que ça ne se trouve pas beaucoup dans d'autres livres ou là dans des cassettes ou là. Il a dit, قال لي شيخنا, Cheikh Al-Albani m'a dit, حفظه الله, الأصل في الأذكار حتى السلام أن تكون على طهارة. La règle, dans les invocations, même salam, de préférence, on a les petites ablutions. Cheikh Al-Albani dit, La règle dans les invocations, c'est de faire les petites ablutions, même si c'est pour rendre à quelqu'un salam ou bien pour dire à quelqu'un salam. Il a dit c'est meilleur. Il a dit fal adhan min bab awla. Il a dit donc si pour seulement dire salam alaykum, je préfère le wudu. Donc qu'en est-il du adhan? Adhan Allahu akbar, Allahu akbar, shahadu la ilaha illallah. Donc adhan c'est beaucoup mieux que les petites ablutions pour le adhan. Troisièmement, mustahab min sunna aydan an yu'adhdhina qa'iman, qu'il fasse le adhan en étant debout. Qu'il fasse le adhan en étant debout. On va montrer qu'il est possible de faire le adhan en étant assis. Comme il est possible de faire le prêche du vendredi en étant assis. Comme faisait Muawiya radiallahu ta'ala anhu, il faisait le premier prêche, car le Muawiya, il y a deux khutbas. Il faisait la première debout et la deuxième assis. Mais bien sûr, il avait une excuse, c'est que il avait un ventre. Il a commencé à avoir un ventre assez gros qui le, s'il restait debout, ça lui faisait mal. Alors il s'asseyait, il faisait le prêche du vendredi assis, radiallahu ta'ala anhu. Al-Muhim, il a dit min sunnah, c'est de quoi? C'est de faire le adhan debout. Il a dit c'est quoi le dalil? Le dalil, c'est le hadith que j'avais cité la fois passée, le sahabi radiallahu ta'ala anhu, qui a vu, je crois que c'est Zayd, qui a vu Abdullah ibn Zayd, qui avait vu quoi? Il avait vu dans le songe l'ange qui est venu lui montrer la façon de faire le adhan. On l'a cité la fois passée. Il avait vu dans le songe que quelqu'un, c'est un ange bien sûr, qui est venu, il lui a montré comment qu'il faisait le adhan. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit entre autres ra'aytu rajulan, j'ai vu un homme, bien sûr un ange sous forme d'homme dans le songe, كأن عليه ثوبين أخضرين, qui avait deux vêtements de couleur verte, فقام على المسجد فأذن, il est monté sur le toit de la mosquée, il a fait le adhan, il a dit ensuite ثم قعد قعدة, ensuite il s'est assis un moment, ثم قام فقال مثلها, ensuite il s'est relevé, il a dit la même chose, c'est-à-dire il a fait l'iqama. إلا أنه يقول قد قامت صلاة. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, quand il a voulu montrer le adhan, il a fait voir à cette personne un ange et sous forme d'homme, habillé en quoi? Habillé en vert. C'est pour ça que certains disent la couleur verte dans le songe, c'est quelque chose de bien. Il a dit donc cet homme dans le songe, qu'est-ce qu'il a fait? Il est monté sur le adhan, sur la terrasse de la mosquée, et il a fait le adhan. Donc il s'est mis debout. Il est monté, il ne va pas s'asseoir sur la terrasse, il s'est mis debout. Ensuite le dalil, il a dit ensuite il s'est assis et il s'est remis debout, il a fait l'iqama. Et il s'est remis debout, il a fait l'iqama. C'est pour ça que de préférence, quelqu'un quand il fait le adhan, la sunna, il est fait debout. Ensuite il a dit ici وَقَدْ جَارَ الْعَمَلُ عَلَى الْأَذَانِ قَائِمًا خَلَفًا عَنْ سَلَفٍ, et tous les salafs et même ceux qui sont venus après les salafs, tous sont unanimes pour dire que le adhan, sa sunna, c'est de le faire debout et non pas assis. وَقَالَ فِي الْمُغْنِي, قَالَ إِبْنُ الْمُنْذِرِ أَجْمَعَ كُلُّ مَنْ أَحْفَظُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّ السُنَّةَ أَنْ يُؤَذِّنَ قَائِمًا. Il a dit tous les gens de Ilm que je connais, Ibn Mundhir dit, tous les ulama que je connais sont unanimes pour dire que la sunna du adhan, c'est de le faire debout, ne pas assis, et non pas assis. Et le dalil qu'on doit le faire debout, que de préférence on le fait debout, c'est le dalil que je viens de citer maintenant, le songe, dalil du songe. Et aussi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a dit à Bilal? Il lui a dit qum ya Bilal, قم حتى تؤذن, il a dit lève-toi, fais le adhan. Ça aussi c'est un dalil qu'on doit se lever pour faire le adhan. نعم. وعن الحسن ابن محمد رضي الله تعالى عنه قال دخلت على أبي زيد الأنصاري, quelqu'un a dit je suis rentré chez Abu Zayd al-Ansari, فأذن وأقام وهو جالس, j'ai vu Abu Zayd al-Ansari رضي الله تعالى عنه, je l'ai vu, il a fait le adhan assis, ensuite il a fait la iqama tout en étant assis. Qal wa taqaddama rajulun fa salla bina. Ensuite il a dit, il y a une autre personne qui est allée à l'avant et nous a guidés dans la prière. Ensuite il a dit, il parlait de celui qui a fait le adhan assis, la iqama assis, il a dit wa kana a'raj, et il était a'raj. A'raj, ça veut dire quelqu'un qui boitait. Il boitait. Il a dit usibat rijluhu fi sabilillah ta'ala. Yani quand il a fait la guerre sainte, il a été blessé. Il a été blessé, yani une blessure grave, bien sûr. Donc, pour cela, il a fait quoi? Il a fait le adhan assis et il a fait la iqama assis. Donc, nous, qu'est-ce qu'on tire? Qu'est-ce qu'on conclut cela? Que quand je suis malade, je ne peux pas me lever, je m'assois et je fais le adhan. Je ne dis pas, c'est pas la peine de faire le adhan, je ne peux pas me mettre debout. Je suis excusé, je ne peux pas. J'ai une blessure, là, je peux pas tenir debout, je suis malade, je tremble, qu'est-ce que je fais? Je m'assois et je fais le adhan. C'est la même chose, je m'assois pour la iqama. D'ailleurs, il y a un autre dalil par raison, yani par raisonnement. Si la salat, je peux la faire assis, qu'en est-il de l'adhan et de la iqama? La salat, si j'ai une excuse, je peux la faire tout en étant assis. Alors, qu'en est-il yani de la iqama et du adhan? Comment ne pourrais-je pas les faire assis si je suis excusé? Quatrièmement, de la sunna du adhan, an istaqbil al-qibla. La sunna de l'adhan, que quand il veut faire l'adhan, le adhan, il cherche où est la qibla et il se met face à la qibla et il fait le adhan. Qala fil mughni al-mustahab an yu'adhdina mustaqbil al-qibla la na'lamu khilafan. Il a dit le conseiller, pardon, il a dit fil mughni, ce qui est conseillé, c'est de faire le adhan en face de la qibla. On ne connaît pas de divergence en cela. Il a dit, je ne connais pas de divergence. Je n'ai jamais entendu un alim qui a dit qu'on donne par exemple son dos à la qibla, on fait le adhan. Il a dit, je ne connais pas cela. Wajaa fil irwa du Sheikh Nasruddin rahimahullah, il a dit, al hukmu sahih, faqad thabat istiqbalu al qiblati fil adhan من الملك الذي رآه عبد الله بن زيد الأنصاري في المنام. Il a dit, صح, c'est vrai. Quand on fait le adhan, on le fait en face de la qibla. Il a dit, parce que son dalil, c'est le compagnon, radiallahu ta'ala anhu, Abdullah ibn Zayd, qui a fait le songe. Quand il a fait le songe, il a vu un homme habillé en vert, porté deux vêtements verts. Il lui a montré le adhan. Dans ce hadith, il est dit que l'homme s'est mis en face à la qibla et a fait le adhan. Donc l'homme s'est mis, l'homme qui est un ange bien sûr, s'est mis, car un vrai homme ne peut pas se venir dans le bafa. Donc il s'est mis quoi? Il s'est mis en face de la qibla et a fait le adhan. Il a fait le adhan. Donc voilà le dalil que quand on veut faire le adhan, on cherche la qibla, c'est mieux. Bien sûr, si on ne fait pas en face de la qibla, il est possible. Yani, ce n'est pas interdit, ce n'est pas haram. Mais on est en train de montrer quelles sont les choses mustahabbat, quelles sont yani les choses que si tu les fais c'est mieux et tu as un ajr plus, tu as un ajr yani plus et plus grand. Ça ne veut pas dire que si tu le fais, tu donnes ton dos à la qibla, que ce n'est pas possible. Naam. Wa aydan fi al hadith an Mujammah ibn Yahya qal kuntu ma'a abi Umama ibn Sahl. J'étais avec Abu Umama ibn Sahl. وهو مستقبل المؤذن اللي تي اون فاس دو مؤذن فكبر المؤذن وهو مستقبل القبلة. Il a dit المؤذن في مي فاس لا قبلة et il a commencé, il a dit الله اكبر الله اكبر. Cinquièmement, donc quatrièmement, c'est d'être en face de la qibla. Cinquièmement, de la sunna, c'est de mettre ses deux doigts, ou là, c'est de mettre ses doigts à l'intérieur de ses
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل في صوت شيخ؟ je crois que vous avez un problème de connexion. Inch'Allah, je pense qu'il faut sortir et rentrer à nouveau. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قل لي où je me suis arrêté, بارك الله فيك. نعم, où je me suis arrêté. Il est aussi sunna de mettre ses doigts dans ses doigts en faisant le adhan. C'est l'albani. Les doigts. Taïb, les doigts, mais j'ai beaucoup. parler des doigts, je sais pas, je me suis arrêté. El Mohem. Conclusion pour les doigts. Les doigts, c'est tout. Non, oh, les doigts. Donc, j'ai pas parlé de. Il se tourne à droite et à gauche. Parce que j'ai parlé de. Il se tourne à droite et à gauche. Non, hein. C'est dommage, hein. J'ai beaucoup parlé. Sixièmement, de la sunna, c'est que quand il dit Hayya Salat, il fait tourner un peu sa tête et son cou à droite. Il dit Hayya Salat. Ensuite, il fait tourner son cou et sa tête seulement à gauche. Il dit Hayya al-Falah. Le David, c'est que Bilal, radiallahu ta'ala anhu, quand on l'a vu faire le Adam, quelqu'un a dit, qui s'appelle Abu Juhayfa, il a dit, j'ai commencé à suivre yani, sa façon de faire, il a dit, je voyais sa bouche, il disait à droite, comme ça, Hayya al-Falah, ensuite à gauche. Il allait à gauche, il faisait Hayya al-Falah. C'est pour ça que Ibn Khuzayma, rahimahullah, dans son livre, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait un chapitre spécialement intitulé comme titre Inshiraf al-Mu'addin, la déviation du Mu'addin, inda qawlihi hayya al-salat, hayya al-falah, bifamihi, la bibadanihi. Naam, la déviation du Mu'addin, quand il dit hayya al-salat et hayya al-falah, avec sa bouche et non pas avec son corps. Naam, et non pas avec son corps. Imam Nawawi a dit, قال أصحابنا المراد بالالتفات كون الإمام يدواس ديفي à droite et à gauche أن يلوي رأسه وعنقه c'est de faire tourner sa tête et son cou, c'est tout, sa tête et son cou. ولا يحول صدره عن القبلة et il ne dévie pas sa poitrine et son buste de la قبلة. Ça veut dire ma poitrine reste toujours en face de la قبلة, mon corps est toujours en face de la قبلة et seulement ma tête et mon cou. Je tourne un peu ma tête vers la droite, je dis Hayya al-Salat, ensuite je tourne mon cou vers la gauche, je dis Hayya al-Falah. Je ne fais pas comme fait certains gens, ils se tournent complètement à droite pour dire Hayya al-Salat, ensuite ils se tournent complètement à gauche et ils disent Hayya al-Falah. Ça, ce n'est pas vrai. C'est pour ça que qala Sheikhuna, Sheikh al-Albani rahimahullah fi tamam al-minna safha 150, page 150, dans Tamam al-Minna, Cheikh al-Albani a dit, Amma tahwilu al-sadr, fala asla lahu fi sunna al-batta. Amma tahwilu al-sadri, fala asla lahu fi sunna al-batta. Il a dit, en ce qui concerne, yani faire tourner le buste et la poitrine, ça n'a rien à voir avec la sunna. Il a dit, ça n'existe pas dans la sunna. Cheikh al-Albani a dit, ça n'existe pas dans la sunna de faire tourner tout le corps pour dire Hayya al-Salat, ensuite tout le corps à gauche pour dire Hayya al-Falah. Il a dit, on tourne seulement la tête, je reste mon corps en face de la Qibla et je tourne ma tête vers la droite, je dis Hayya al-Salat, Hayya al-Salat, et vers la gauche je dis Hayya al-Falah, Hayya al-Falah. Non. Septièmement, c'est de la sunna que quand quelqu'un veut faire le adam, il monte, mais on doit dire Hayya al-Salat de chaque côté. Naam, on doit dire de chaque côté, on doit dire du côté droit deux fois Hayya al-Salah, Hayya al-Salah, ensuite on tourne à gauche Hayya al-Falah, Hayya al-Falah. Voilà la sunna. Septièmement, an yakun al-mu'addin qui soit dans un endroit élevé. C'est ça de la sunna. La sunna, s'il peut monter sur quelque chose pour faire le adhan, qu'il le fasse, s'il peut monter. Premièrement, quand quelqu'un monte, il est plus vu, on le voit mieux que celui qui est en bas. On dit, tiens, qu'est-ce qu'il fait celui-là sur cet arbre? Pourquoi il s'est penché en haut? On peut le voir, donc on remarque que c'est la salat. Deuxièmement, sa voix se répand beaucoup plus que celui qui est en bas, là dans un rez-de-chaussée. Celui qui est en haut, toujours sa voix se répand plus que celui qui est en bas. Et troisièmement, c'est de la sunna. Le dalil, c'est que le sahabi radiallahu ta'ala qui a fait le songe, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, ra'aytu rajulan, j'ai vu un homme, ka'anna 'alayhi thawbayn akhdarayn, comme s'il avait deux vêtements verts. Il a dit, faqama 'ala al-masjid fa'adhana, Il a dit, فقام على المسجد, il est monté sur la mosquée, elle est sur la terrasse, il a fait la prière. Pardon, il a fait le adhan. Donc la sunna, c'est de quoi? C'est de faire le adhan sur un endroit élevé. Bien sûr, si on peut. Si on ne peut pas, on le fait sans monter. وعن امرأة من بني النجار قالت اي يافي اون فام كي ادي كان بيتي من اطول بيت حول المسجد. اون فام ادي ما ميزون ايتي لون دي ميزون لي بلو اوت كي ايتي دو كوتي دو لا موسكي دو بروفيت صلى الله عليه وسلم. انا دي ما ميزون ايتي اون دي ميزون لي بلو اوت. وكان بلال يؤذن عليه الفجر. اي بلال فوني دون ما ميزون سور لا تيراس بور فير ادان بور فير لو ادان. دونك بلال رضي الله تعالى عنه كيس كي فوزي il choisissait la maison qui était la plus haute pour aller faire le adhan. Naam. Huitièmement, an yarfa'a sawtahu bil adhan. Huitièmement, de la sunna, c'est de lever sa voix avec quand on fait le adhan, on le fait à voix haute. Et on avait cité le hadith qui disait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à quelqu'un, il lui a dit إني أراك تحب الغنم والبادية. إلى دي صاع عبد الرحمن بلي أبي صاع صاع الأنصاري لو يادي je vois que quelqu'un qui aime la campagne et les moutons. فإذا كنت في غنمك أو باديتك, si tu es à la campagne ou bien tu es avec tes moutons, فأذنت بالصلاة et que tu fais le adhan pour faire la prière, فارفع صوتك بالنداء. Lève, يعني fais augmenter يعني le son, si je puis dire. Oui, lève, يعني fais le adhan d'une voix forte, yani fais-le yani pour que ce soit fort, fais-le d'une façon forte. فإنه لا يسمع مدى صوتك المؤذن فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شاهد له يوم القيامة. نعم. Pourquoi? Il lui a dit, il n'y a pas quelque chose qui entendra ton adhan, que ce soit un djinn, yani un démon ou un esprit ou un diable, soit un djinn, ou bien une personne, ou bien une chose, yani un arbre, un caillou, un rocher, n'importe quoi, sans qu'il soit des témoins pour toi le jour du jugement dernier. Naam. C'est pour ça que yani, essaie au maximum de le faire le plus fort possible si tu peux. Ça c'est huitièmement. Neuvièmement, أن يتمهل في الأذان ويسترسل. نعم. وجاء في المغني قال يسترسل في الأذان ويحضر الإقامة. الأذان quand on fait, on le fait يعني doucement, يعني on dit الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. إلى إقامة tu peux la faire un peu vite. الله أكبر direct. الله أكبر الله أكبر شهد أن لا إله إلا الله شهد أن محمد رسول الله حيا الصلاة حيا الفلاح قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله c'est possible. Mais l'adhan non, l'adhan tu attends, tu يعني tu fais des étapes. الله أكبر الله أكبر tu attends. الله أكبر الله أكبر ensuite أشهد أن لا إله إلا الله tu attends. Et comme ça. Mais ce n'est pas possible comme font certains gens. Qu'est-ce qu'ils font? Ils coupent entre الله أكبر et الله أكبر. Certains disent comme ça, ils disent Allahu Akbar, ensuite il attend. Allahu Akbar, ça c'est pas possible. Le adhan, ça marche par deux, c'est shafa. Il faut que tu dises deux à la fois. Allahu Akbar, Allahu Akbar, tu attends. Allahu Akbar, Allahu, ça marche par deux. Ceux qui font seulement une fois, cela se trompe, ce n'est pas dans la sunnah. Je vous révise les sept choses ou les huit choses que de préférence on doit les faire avec le adhan. Premièrement, l'intention, il faut que ça soit pour Allah. Deuxièmement, il faut, s'il a les petites ablutions, c'est mieux. Troisièmement, qu'il fasse le adhan debout. Quatrièmement, qu'il le fasse en face de la qibla. Cinquièmement, qu'il mette ses deux doigts dans ses oreilles. Sixièmement, il fait tourner seulement sa tête et son cou à droite et à gauche pour dire haya salat haya salat haya falah haya falah. Huitièmement non, c'est sixièmement. Septièmement, qu'il fasse le adhan dans un endroit élevé. Huitièmement, il le fait d'une voix, bien, il le fait fort. Neuvièmement, il le fait yani, doucement, doucement. Quand j'ai, bon, doucement, c'est pas le contraire de fort. Ça veut dire sans aller vite. Il le fait lentement. Il va pas vite. La iqama, il peut la faire assez vite. Adhan al-a'ma idha kana lahu man yukhbiruhu. Bien sûr, vous savez que il est possible que quelqu'un fasse le adhan même s'il est aveugle. Quel est le dalil? Le dalil est très connu, le hadith de Abdullah ibn Umm Maktoum qui faisait quoi? Qui faisait le adhan tout en étant aveugle. Donc, le hadith, c'est le sahabi dalil qui faisait le adhan qui était aveugle. Un autre dalil, par raisonnement aussi. Si la prière, un aveugle peut la faire. Un aveugle peut nous guider pour la prière tout en étant aveugle. Alors, qu'en est-il du adhan? Ça, prière, maintenant. On est un groupe, il y a quelqu'un qui est aveugle et connaît mieux que nous le Coran. On l'avance, il nous guide dans la prière. C'est possible. Alors qu'en est-il seulement le adhan? Donc le adhan, même quelqu'un qui est aveugle, bien sûr, il peut le faire. Combien qu'on attend entre le adhan et la iqama? Combien qu'on doit attendre? On a fait maintenant le adhan. Combien qu'on doit attendre entre le adhan et la iqama? An Abdillah ibn Mughaffal nous a dit أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بين كل أذانين صلاة لمن شاء. Le prophète صلى الله عليه وسلم a dit entre chaque adhan, à chaque fois qu'on fait le adhan et la iqama, à chaque fois qu'on fait le adhan, ensuite il va y avoir la iqama. Le prophète عليه الصلاة والسلام a dit entre chaque adhan et l'iqama il y a une salat. Ce qu'il a dit pour celui qui veut, bien sûr, pour celui qui veut, c'est-à-dire ce n'est pas obligé. Non, entre chaque adhan et chaque iqama, il est préférable de faire deux rak'at, au moins deux rak'at. Pourquoi? Parce que en ce moment, en ce moment-là, entre le adhan et l'iqama, le dua, Allah subhanahu wa ta'ala l'exauce. Allah subhanahu wa ta'ala exauce le dua après le adhan, avant l'iqama. Donc c'est un endroit, un moment propice pour bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala istinam, yani الموضع للصلاة لاستجابة الدعاء إن شاء الله تعالى. وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه كادي أنس بن مالك pour montrer combien qu'on reste entre le adhan et la iqama. أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه a dit كان المؤذن إلى أذن. Autrefois le مؤذن quand il faisait le adhan, كان المؤذن إلى أذن قام ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يكتذرون السواري حتى يخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهم كذلك يصلون الركعتين قبل المغرب ولم يكن بين الأذان والإقامة شيء كثير. أنس بن مالك a dit lorsque au temps du prophète صلى الله عليه وسلم quand le adhan terminait le adhan, les gens se levaient et cherchaient comment on appelle les piliers de la mosquée pour faire la prière. Pourquoi qu'ils cherchent les piliers? Pour avoir une sutra. C'est pas comme maintenant tu vois les gens, il rentre à la mosquée, en plein milieu de la mosquée, il dit Allahu Akbar, en plein milieu. Il s'en fout, on passe à droite, on passe à gauche, on lui dit rien. En plein milieu, il fait la fin. Donc il ne peut pas. Il doit quoi? Il doit chercher, Inch'Allah Ta'ala, une sutra. Regardez les sahabas, qu'est-ce qu'il dit ici? Il dit, dès qu'il termine le adhan, il cherchait, je ne sais pas si ça s'appelle les piliers, chercher les piliers de la mosquée pour faire quoi? Faire la prière en face du pilier pour que ça soit quelqu'un qui passe qui me coupe la salat. Ensuite il a dit كانوا يصلون ركعتين, il faisait les deux rak'at. Ensuite il a dit ولم يكن بين أذان إقامة شيء, et il y avait pas beaucoup de temps, لم يكن شيء يعني شيء كثير, il y avait pas beaucoup de temps entre l'adhan et la iqama. Non, quand on fait adhan ou si on veut faire la iqama, il y a pas beaucoup de temps. Au fil hadith, combien de temps à peu près on doit laisser entre la iqama et le adhan? Combien de temps? 10 minutes, un quart d'heure. Regardez le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'a-t-il dit? Il a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam donne une nasiha à quelqu'un. Il lui dit, ij'al bayna adhanika wa iqamatik nafasan. Donne, laisse un souffle. Laisse les gens s'essouffler. Entre ton adhan et ta iqama. Ensuite il explique, il a dit, قدر ما يقضي المحتصر حاجته في مال. Le temps que si quelqu'un par exemple est allé aux toilettes, qu'il fasse ses besoins à l'aise, ne précipite pas les gens. Yani quand tu fais l'adhan, attends un peu le temps que peut-être quelqu'un est allé aux toilettes, peut-être quelqu'un est allé aux ablutions, peut-être quelqu'un, yani donne un peu de temps et attends que si quelqu'un est allé aux toilettes, qu'il finisse ses besoins. و c'est toujours le hadith wa qadr ma yufrighu al-akil min ta'amihi fi mawri, et donne à celui qui a commencé à manger ou à celui qui est en train de manger, donne-lui le temps qu'il finisse sans manger pour que il puisse venir faire la prière avec nous. Donc c'est yani, il faut laisser un peu de temps entre le adhan et la iqama, peut-être au moins un quart d'heure, peut-être au moins un quart d'heure, pour donner le temps aux gens de yani, celui qui est aux toilettes, celui qui a commencé à manger. Et bien sûr, quand on dit manger yani, le manger d'autrefois, c'est pas maintenant les 5 ou 6 plats avec 3 ou 4 sortes de desserts, ensuite les jus de fruits, ensuite le thé, ensuite je ne sais pas, café noir, c'est peut-être la cigarette, c'est pas ça le manger d'autrefois. Il y a la shorba et le khobz, la shorba et le pain, non, la shorba et le pain, et tu vas à la prière. Un moim, qu'est-ce qu'il a dit aussi ici, est-ce qu'on peut parler entre le adhan et la iqama? Maintenant, il y a le adhan, il a terminé, on a fait 2 rak'at, je me suis assis, j'attends l'iqama. Est-ce que je peux parler? C'est interdit de parler. An Anas radiyallahu ta'ala anhu qala uqimat salatu al-isha. Anas radiyallahu ta'ala anhu a dit au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam uqimat salat. On a entendu Allahu akbar, Allahu akbar, yani qamat salat. Fa qala rajulun li hajatun. Et quelqu'un a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit j'ai une chose, je voudrais savoir une chose, là j'ai une affaire, ou là muhim, donne-moi un peu de ton temps. Fa qama an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam yunajih. Le professeur Hassan a commencé à lui parler comme ça, yani, en aparté, lui et lui. Yani, les deux seulement, personne n'entendait. Il a dit, حتى نام القوم. Subhanallah al-Azim, il a dit, حتى نام القوم. Au point ou quoi, où les gens, il a dit ici, au bas de l'Qom. Entre parenthèses, il a dit, au bas de l'Qom. Jusqu'au point où certains gens se sont endormis. Non, certains gens se sont endormis. Dans d'autres hadiths de musulmans, où il dit, ils ont ronflé. Ils ont même renflé. Ensuite, il a dit, Thumma sallou. Ensuite, ils ont fait la prière. Donc, c'est possible que, entre le adhan et l'iqama, qu'il y ait quelque chose que je parle, que ce n'est pas interdit. Ce n'est pas interdit de parler. Ce qui est interdit de parler, c'est de parler dans des choses, yani, qui n'ont rien à voir avec le zikr. De dire, par exemple, je vais acheter une voiture, ou laquelle est le prix de la voiture, ou bien, quels sont les derniers portables, quels sont leurs numéros, combien, où on les vend, Bluetooth, ma Bluetooth, Kaza, tout ça, c'est interdit dans la mosquée, sauf si on le fait rarement. Si on le fait rarement. Mais si on le fait par habitude, il y a un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit, attention, ne restez pas avec ces gens-là. Ne restez pas avec ces gens-là qui, yani, la plupart du temps, sont en train de parler sur la dunya. Sont en train de parler sur la dunya. قال الإمام ابن حزم في المحلى كاد ابن حزم مسألة 333 كيف قال دي والكلام جائز بين الإقامة والصلاة قال الكلام أو قصر ولا تعاد الإقامة لذلك ابن حزم قال دي et le fait de parler est permis entre le adhan et la iqama, que ça soit beaucoup de kalam, qu'on parle beaucoup ou qu'on parle peu, tout cela est permis. Et ce n'est pas la peine de refaire l'iqama. Non. Quelqu'un va parler, ensuite il a dit, bon, j'ai fait l'iqama, mais on a parlé. Allez, on va refaire l'iqama. Non. Je donne un exemple. Par exemple, il y a la pluie, etc. Je ne suis pas parti à la mosquée. Vous savez, quand il y a la pluie, etc., on peut faire la prière à la maison. Maintenant, j'ai fait la prière à la maison, j'ai fait l'adhan, j'ai attendu un peu, j'ai fait l'iqama, j'ai terminé l'iqama, je voulais dire Allahu Akbar. Ensuite, c'est passé une chose, ou là un voisin est venu, il m'a dit une chose, ou là mon fils m'a dit une chose, ou là je ne sais pas, ma mère m'a dit une chose, on a parlé un peu. Ensuite, je ne dis pas, plus j'ai parlé au voisin, plus j'ai parlé à ma mère, plus j'ai parlé à mon fils, alors je vais refaire l'iqama. Alors attends, je vais refaire une deuxième fois. Allahu Akbar, Allahu Akbar, qad qamat salat. Il a dit non, c'est pas la peine. Le fait de parler après l'iqama n'annule pas l'iqama. Tu n'as pas besoin d'une nouvelle iqama. Tu dis Allahu Akbar et tu rentres directement dans la prière. Taniyan, il est interdit de faire le adhan, il est interdit de faire le adhan avant la rentrée de l'heure. Si ce n'est pas l'heure de l'adhan, l'heure de la prière n'est pas arrivée, il est interdit de faire le adhan, il n'est pas permis. Sauf salat al-sobh. Sauf la prière du sobh, il y a un adhan avant la prière. Ce adhan, il est fait spécialement pourquoi, comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est fait pourquoi? Il est fait pour que celui qui est en train de faire par exemple le tahajjud, la prière de la nuit, pour qu'il sache que maintenant il ne reste pas beaucoup préparatoire pour la prière du sobh. Et pour que celui qui est en train de dormir, il se lève, il se prépare pour la prière du sobh. Peut-être que il a une janaba, il doit se lever, il doit se laver, pardon. Peut-être que la mosquée est assez loin. Donc, ce adhan, il est avant la salat. Il est avant la salat. Il s'appelle adhan al-fajr. C'est dans ce adhan où on dit as-salatu khayrun min an-nawm. As-salatu khayrun min an-nawm. Ce adhan, il est avant l'heure. Il n'y a aucune prière. Et même quand tu entends ce adhan, ça ne veut pas dire, si tu l'entends pendant le mois de Ramadan, que tu ne vas plus manger, comme font certains gens. Quand ils entendent ce adhan, ils disent là, c'est le premier adhan, j'arrête de manger. Tu arrêtes de manger avec le deuxième adhan, pas le premier. Le premier adhan, c'est pour qu'ils t'avertissent. Au contraire, quand tu entends le premier adhan, va vite faire chauffer le hamm al-hlou. Le hamm al-hlou va le faire chauffer et va le manger la shorba. Va vite manger, parce qu'il reste seulement un quart d'heure. Et ce n'est pas, on fait le contraire. Beaucoup de gens, quand ils entendent le premier, ils arrêtent. Ils disent khlas. Il y a même, ma'al asaf, il y a des gens qui, dans des pays, où ils leur disent de s'arrêter avant le premier adhan, une demi-heure. Avant le premier adhan, la hawla wa la quwwata illa billah, le premier. Alors qu'Allah Ta'ala dit, wa kulu wa shrabu hatta yatabayyana lakum al khayt al abyad min al khayt al aswad min fajr. Allah Ta'ala dit dans le Coran, buvez, mangez, buvez jusqu'à ce que vous voyez le fil noir du fil blanc du fajr, fajr, fajr. Il s'appelle ceci imsak, na'am, il s'appelle imsak. Il te dit, et ce qui est grave aussi, la hawla wa la quwwata illa billah, c'est de trouver dans certains calendriers, il te dit, voilà, imsak, 2h40, fajr, 3h, sobh, 3h40, la hawla wa la quwwata illa billah, imsak, d'où il est venu? Comme a dit Ibn Hajr et les autres, il a dit c'est une bida. Ceux qui disent, moi je fais l'imsak par prudence, on ne sait jamais. On lui dit, il n'y a pas de prudence. La prudence a été montrée dans le Coran. Allah Azza wa Jal aime la prudence et il a dit, mange jusqu'à Salat Sobh, jusqu'à ce qu'il fasse le deuxième adhan, où il ne dit pas Salat Khilm. Le deuxième adhan, ça veut dire qu'il est interdit de manger. Il est interdit. Et celui qui a quelque chose dans la bouche, il la termine. Celui qui avait un plat, il termine son plat. Celui qui était en train de boire, il termine sa boisson. Tout ça, c'est permis. On l'a déjà dit, on le redira, inshallah, quand le Ramadan yani, viendra. Maintenant, j'étais où? Naam. Est-ce que celui qui n'a pas fait le adhan peut faire l'iqama? Bien sûr. Il n'y a aucune chose dans la sharia qui interdise. Il n'y a aucune chose dans la sharia qui dit que seulement celui qui fait le adhan doit faire l'iqama. Et par malheur, ça se trouve chez beaucoup de gens. Si jamais quelqu'un fait le adhan et toi tu veux faire l'iqama, ils t'empêchent. Ils disent non. Yani, c'est lui qui a fait le adhan, c'est lui qui va faire l'iqama. Et bien sûr, il se base sur un hadith, comme a dit Cheikh Al-Albani, hadith un da'if. Man adhana fa huwa yuqim. Quiconque fait le adhan, c'est lui qui fait l'iqama. C'est un hadith faible. Il se base sur ce hadith faible. Et c'est pour ça que Cheikh Al-Albani a dit, Allah yarhamou, wa min athar had hadith sayyi, et yani des conséquences de ce hadith qui est faible, al-ithara al-niza' bayn musallin. Et voilà que ce hadith qui est faible à cause de ce hadith, et qui est faible encore, il y a yani des gens qui se disputent entre eux. Kama waqa'a dhalika ghayra marra, comme ça s'est passé plusieurs fois. Comme ça, c'est pas super. Il a dit des fois le adhan, le mu'adhan, il fait l'adhan. Et c'est possible qu'il aille, par exemple, faire des ablutions. Il sort et il revient. Et des fois, il se retient, ou là, il va faire ses besoins, ou là, il revient pas vite. Il revient pas vite. Alors, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, wa yuridu ba'du al-hadirin an yuqim salat. Alors, quelqu'un se dit, subhanallah, le mu'adhan, il a tardé. Ah, je vais faire l'iqama. Il a dit, فما يكون من أحدهم إلا أن يعترض عليه محتج بهذا الحديث ولم يدري المسكين أنه حديث ضعيف. Il a dit alors celui-là qui veut faire l'iqama, les gens vont lui dire non, 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 c'est pas possible, il y a un hadith qui dit c'est celui qui fait l'adhan qui fait l'iqama. Il a dit, et il ne sait pas le miskin, comme ça dit l'Albani, il ne sait pas ce miskin que ce hadith n'est pas vrai et que quiconque peut faire l'iqama. Ce n'est pas obligé que ce soit le adhan qui vienne faire l'iqama. Ensuite, هل الإقامة تفعل في موضع غير موضع الأذان؟ Il a dit نعم. La sunna, c'est de faire l'إقامة pas dans l'endroit où on a fait l'أذان. نعم, on fait l'أذان dans un endroit, on fait l'إقامة dans un autre endroit, dans un autre endroit. Le délit c'est quoi? Le délit c'est de toujours le hadith du compagnon qui a fait le songe. Il a dit ثم استخر, il a dit cet homme a habillé de vert dans le songe, a fait le adhan, ensuite il est allé un peu en arrière, istakhara, pas loin de moi, ensuite il m'a dit, taqul, ida aqamta salat, kada ou kada, ensuite tu fais la iqama. Donc quand il a vu quelqu'un en songe, il l'a vu dans deux endroits, il l'a vu dans un endroit où il a fait le adhan, ensuite il a changé d'endroit et lui a dit, voilà ce que tu dis dans la iqama. Donc c'est de la sunna de changer de place pour faire quoi? Faire l'iqama. Maintenant, combien il reste parce que je dois m'arrêter pour beaucoup de choses là-dedans. Peut-être je vais les faire comme ça très vite. Non, peut-être seulement il y a des titres sans beaucoup expliquer. Pour Inch'Allah Ta'ala terminer le azan. متى يقوم الناس إلى الصلاة؟ Quand est-ce que les gens se lèvent pour la salat? Maintenant, le muezzin ou bien une personne quiconque a commencé l'iqama. Allahu akbar, Allahu akbar. Shahadu la ilaha illallah. Ensuite, il a dit Hayya al-salat, qad qamat al-salat, qad qamat al-salat, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Mais maintenant, quand est-ce que je me lève? Je suis dans la mosquée. Quand est-ce que je me lève pour faire, yani, quand est-ce que je me lève, voilà. Qala shaykhuna, parce que Ibn al-Mundir, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit Anas radiallahu ta'ala anhu, kana yaqum, lorsque le mu'adhin dit qad qamat salat. Il y a un hadith de Anas ibn Malik, le compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui il a été vu que il restait toujours assis quand il y a l'iqama. Quand il entend qad qamat salat, quand le mu'adhin dit qad qamat salat, il se levait. Cheikh al-Albani dit dans Tamam al-Minna, page 151, il a dit Qultu yanbaghi taqyidu dhalika bima idha kana al-imam fi al-masjid. D'accord, il a dit Cheikh al-Albani, d'accord, c'est possible, on se lève quand le mu'adhin dit qad qamat salat, mais à condition que l'imam soit dans la mosquée. À condition que l'imam soit dans la mosquée, parce que on a un autre hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ne vous levez pas jusqu'à ce que vous voyez qui l'imam. Il a dit ne vous levez pas pour la salat jusqu'à ce que vous voyez l'imam. Donc moi, pour que je reste assis et je me lève pas jusqu'à ce qu'il dise qatqam salat, il faut que je voie l'imam, il est là. Maintenant si l'imam il est dans sa chambre, des fois il y a une chambre à l'intérieur de la mosquée, dans sa petite chambre, il est enfermé et le mu'adhin a commencé Allahu Akbar, Allahu Akbar, qatqam salat, alors je peux me lever. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'imam. Mais s'il y a l'imam qui est debout devant le mu'adhin qui fait la iqama, je peux rester assis jusqu'à ce qu'il dise qatqam salat, qatqam salat, comme a dit Cheikh Al-Albani, et comme le faisait Anas radiallahu ta'ala anhu. Mais ça ne veut pas dire que je ne peux pas me lever avant, ou là que je ne peux pas me lever après qatqam salat. Tout cela est possible, mais si on ne tarde pas beaucoup, on ne laisse pas après qatqam salat. Pourquoi? Pour ne pas gêner les autres qui font les rangs. Le rang, c'est quelque chose de très important. Si tu restes maintenant le dernier, ensuite, tu vas faire tarder l'imam pour qu'il dise Allahu Akbar. Parce qu'on doit t'attendre pour que tu te lèves et pour yani, faire les rangs. Donc, yani, c'est plus ou moins permis, mais il faut voir, comme j'ai dit, à cause des rangs aussi. Donc, si tu veux faire comme Anas, radiallahu ta'ala anhu, tu laisses quand il dit qatqam salat, c'est possible, mais il faut que l'imam, il faut que tu le vois. Ou bien, tu te lèves au début, ce n'est pas interdit. trouve qu'il y a beaucoup de choses à dire. Il vaut mieux que je m'arrête ici, inshallah ta'ala. Naam, il y a beaucoup de choses qui restent à dire. Le adhan de la femme, le adhan du berger, le adhan de... est-ce que quand on oublie une salat, est-ce qu'on fait le adhan? Quand on voyage, est-ce qu'on fait le adhan? Est-ce que la femme, elle a l'iqama ou elle n'a pas? Est-ce que quand je fais le adhan, je peux dire à quelqu'un salam alaikum, je peux pas dire? Est-ce que... beaucoup de choses. نستغي إن شاء الله بعد 10 دقائق سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله حق حمده والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم نكمل إن شاء الله تعالى الكيسيون on va pas tarder aujourd'hui. On donne les questions, inshallah, qui ont un rapport avec le cours. Sadal, inshallah, et moi, je donnerai aussi deux ou trois questions de ma part. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Lorsqu'on répond à l'adhan ou à l'iqama, quand on arrive à Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, doit-on prier sur le prophète? Qu'Allah vous préserve. On ne prie pas sur le prophète dans cet endroit. Naam, on ne prie pas. On dit... أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله je répète, je dis avec lui أشهد أن محمدا رسول الله et je termine. نعم, il n'y a pas un délit que là on dit la prière du prophète صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم, تفضل إن شاء الله. Deuxième question, est-il obligatoire d'avoir l'ouzou pour dire salam? Et ma question rejoint au sujet de la lecture du Coran en étant djanaba. J'avais dit que tout à l'heure que ce n'était pas obligé de faire le wudu pour dire salam alaikum. C'est pour ça que j'ai beaucoup insisté pour dire que c'était seulement sunnah. Yani, pour dire salam alaikum, il est préférable de faire le wudu, c'est tout. Mais il n'est pas obligatoire. Et pourtant, j'ai bien insisté pour dire que on a fait aujourd'hui le cours sur le mustahabbat, sur les choses qui sont conseillées et pas sur les choses qui sont obligatoires. Aussi, quant à lire le Coran avec la janaba, on ne le lit pas avec la janaba. Naam, on ne lit pas le Coran avec la janaba, mais on doit, bi'idnillah subhanahu wa ta'ala, ne pas être en janaba pour le lire. Je suis en train de parler le lire, c'est-à-dire avec quoi? Avec le mushaf, c'est-à-dire tenir le livre. On ne peut pas tenir le livre quand on a la janaba, on ne peut pas le tenir quand on n'a pas la janaba. Cheikh Islam Ibn Taymiyyah, pardon, quand on ne tient pas le livre, Cheikh Islam Ibn Taymiyyah a dit c'est permis si on ne tient pas le livre. Si on ne tient pas le livre, il a dit il n'y a aucun délit qui dit que c'est interdit. Mais si on tient le livre, on ne peut pas si on est en janaba, on ne peut pas si on a les monstrues. On ne peut pas si on a les monstrues. Naam. Autre sous-al, il a été dit que lorsqu'on fait seul Iqama, il y a deux anges de chaque côté, et lorsqu'on fait la prière en groupe, c'est toujours le cas où ils sont simplement autour de la personne qui fait l'Iqama. Pas bien compris cette question, il doit la relire. Il a été dit que lorsque l'on fait seul Iqama, il y a deux anges de chaque côté. Lorsqu'on fait la prière en groupe, c'est toujours le cas où ils sont simplement autour de la personne qui fait l'Iqama. J'ai réfléchi. Lorsqu'on fait seul l'Iqama, il y a deux anges sur côté. Et lorsqu'on fait la prière en groupe, c'est toujours le cas. C'est-à-dire, il y a deux anges sur côté, où ils sont simplement autour de la personne. Ah, naam. Tu viens de comprendre ça. Naam. Les deux anges à dos, c'est pour celui qui fait l'Iqama, ça. Quand on est seul, on fait l'Iqama. Si on fait seulement l'Iqama, on a deux anges. Si on fait le Adhan plus l'Iqama, il y a des millions de soldats, des milliers ou là, des millions, des centaines, le hadith n'a pas dit. Il a dit qu'il y a des beaucoup, beaucoup de nombres de soldats, c'est-à-dire les anges d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui vont faire la prière avec toi, de façon à ce que, yani, on ne peut pas les compter. Quand on voit leur début, on ne peut pas voir leur fin, tellement ils sont nombreux. Celui-là pour qui il fait l'Adhan et l'Iqama. S'il fait l'Iqama, c'est tout. Il a deux anges devant lui, Allah subhanahu à côté de lui. Allah subhanahu wa ta'ala a'lam. Fadla, inshallah, prochain sou'al. Wa alaikum salam wa rahmatullah. est-ce que si une personne fait l'adhan tout le temps, pour elle seulement, car elle est seule dans la pièce, est-ce qu'elle sera, inshallah, parmi ceux qui auront un long coup, yom qiyama, et quant au destin, pouvons-nous nous dire qu'on mérite ce qu'on a? La fois passée, j'avais parlé de celui qui fait le adhan, et j'avais dit qu'il viendra avec des longs coups, avec de longs coups, comme c'est dans le hadith sahih. Mais est-ce que ça rentre celui qui le fait aussi à la maison ou pas? Je ne sais pas, je n'ai pas un délit qui peut dire est-ce qu'on rentre ou on rentre pas. Je ne sais pas, peut-être on rentre, peut-être on rentre pas. Peut-être c'est seulement pour ceux qui font le adhan, pour les gens, pour les autres, pour qu'ils viennent. Je dis toujours peut-être, mais je n'ai pas un délit. Et peut-être que, inshallah ta'ala, chaque qui fait le adhan, inshallah ta'ala, peut-être que, yani, il aura un long coup. Allah subhanahu wa ta'ala, je n'ai pas de délit pour cela. Ensuite, pouvons-nous dire qu'on mérite ce qu'on a pour le destin? Pouvons-nous dire qu'on mérite ce qu'on a pour le destin? On ne peut pas dire qu'on ne mérite pas. Justement, on ne peut pas dire qu'on ne mérite pas ce qu'on a. Naam. Car sinon, ça veut dire que yani na'tarid ala qada Allah subhanahu wa ta'ala. Mais tout ce qui se passe, on doit dire qaddar Allahumma shafa'al. On doit dire qaddar Allahumma shafa'al. Naam. Et c'est mérité. Naam. Tout cela c'est à cause de nos péchés, et si Allah subhanahu wa ta'ala yani avait voulu être juste, il n'a pas yani employé, utilisé sa rahma, on aurait tous yani coulé. On mérite plus que cela. Alhamdulillah, anna Allah subhanahu wa ta'ala latafa bina. De toute façon, c'est une question qui n'a pas rapport avec le dars, et voilà inshallah ta'ala sa réponse. Salam alaykoum. المؤذن عندما يقول حيا الصلاة حيا الفلاح هل يلتفت بجميع جسده؟ يا شيخ الألباني تونيتي طافيك نو بون يكوني بالفرنسي. شيخ الألباني لم تكن حاضرا معنا لما تكلمنا وقلنا أن الألباني نفسه الله يرحمه هو اللي يقرر المسألة ويقول أنه بدعة الإنسان. ما فيش في السنة, لا يوجد في السنة أن يحرك كل جسده, إنما يحرك فقط عنقه ويلوي رأسه فقط. نعم. وفي الإقامة لا, في الإقامة لم يثبت في الإقامة أنه يعني يلتفت يمنة ويسرة, لم يثبت ذلك في الإقامة, والله سبحانه وتعالى تفضل إن شاء الله. خوش سؤال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Pour le doua après l'adhan, peut-on lever les mains? Il y a des gens qui tendent l'index vers la qibla pendant l'iqamat esfondé. Naam, il y a beaucoup de bid'ah. Bien sûr, chaque chose a ses bid'ah. La salat a ses bid'ah, le siyam a ses bid'ah, le adhan a ses bid'ah, l'iqamat a ses bid'ah, et comme ça. Parmi les bid'ah, les innovations du adhan, parmi les innovations, c'est que quand le adhan termine, certains lèvent les mains pour faire le doua. Lever les mains pour faire les doua du adhan, ça rentre dans l'innovation. On dit seulement la ilaha illallah, ensuite on fait la prière sur le prophète alayhi salam, ensuite on dit Allahumma rabba hadhihi ad-da'wah tammah salat qa'imah ati Muhammad al-wasilata wal-fadila ba'athu maqam mahmudan alladhi wa'adtah. On ne lève pas les mains en faisant ce doua. Deuxièmement, il y a des gens qui tendent l'index vers la qibla pendant l'iqama. Ça c'est une bid'a. Quand on fait l'iqama, on a les mains normalement tendu, yani sur nos deux flancs. On ne lève pas la main, on ne pointe pas l'index ni vers la qibla ni vers un autre endroit. Tout ça, ça rentre dans la bid'a. Il y a aussi une autre bid'a, quand le mu'addin, quand il dit qad qamat salat, beaucoup de gens disent aqamaha Allah wa adamaha, aqamaha Allah wa adamaha. Beaucoup disent haq aqamaha Allah wa adamaha. Toutes ces phrases, ça rentre dans la bid'a, ça rentre dans l'innovation. Naam. Prochain, parce que ça, le prophète alayhi sallam ne l'a pas fait. Ici, c'était des choses bien. C'est lui qui nous les aurait montrées, sallallahu alayhi wa sallam. Bi abi huwa wa ummi, il est plus que mon père et ma mère. Et si ça existait et que Allah aimait cela, le prophète alayhi sallam n'aurait pas hésité un instant pour nous montrer ces choses-là. Il nous aurait montré qu'on lève les mains ou là qu'on pointe le doigt ou là qu'on dise telle ou telle phrase. Naam. Fadl inshallah. Wa khayrul hadi hadi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Doit-on faire l'adhan dans la maison? Naam. On fait le adhan dans la maison, on le fait au-dessus, sur le sommet de la montagne, on le fait quand on est seul, on le fait quand on est avec les troupeaux, on le fait où on est. Où on est, c'est l'heure de la prière, on fait la prière. Même dans la mosquée. Même dans la mosquée, tu arrives à la mosquée, c'est trop tard. Ils ont fait la prière. J'ai dit la sunna, tu vas rattraper ta salat dans la maison. Mais supposons que la maison soit loin, tu rentres dans la mosquée, tu commences par le adhan, ensuite iqama et tu fais la prière. Le dalil, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à qui? Au moussi au fi salatihi. Moussi au fi salatihi, c'est une personne très connue. Je connaissais son nom, j'ai oublié, c'est un compagnon, s'appelle Khaled et quelque chose. J'ai oublié. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Il l'a vu en train de faire la prière sans concentration. Il lui a dit, ta'ala. Lorsqu'il est venu, il lui a dit, irja' innaka lam tusalli. Reviens, tu n'as pas bien fait la prière. Deux, trois fois, il lui dit, viens, refais ta prière, elle est fausse. Il n'y a pas de concentration. La troisième fois, qu'a dit cette personne? Qu'a dit ce compagnon, radiallahu ta'ala anhu? Il a dit, wallah, rasoul, yani, la uhsin, yani, la arif, afdal min hadith salat, ou ma uhsin ou ghayra hadith. Yani, je ne peux pas faire mieux que cette salat. Que lui a dit le prophète ici? Il lui a montré comment il fait la salat. Il lui a dit, yani, da sallait, tu kabber, ou ma taqra matay salam il Quran, ou ma tarka, ou ma taqra in raki'an, et comme ça. Dans ce hadith qui est dans le Bukhari, dans d'autres riwayettes, quand il l'a appelé, il lui a montré comment il fait la salat, il lui a dit, il a commencé par tashahad. Il lui a dit tashahad, ou ma kabber, ou ma iqra, tashahad, ça veut dire c'est le adhan. C'est le adhan. Donc, il est de la sunna, même si tu es seul ou même si tu es dans la mosquée, tu commences par le adhan. Mais seulement, qu'est-ce qu'on doit faire? On le fait à voix basse. C'est pas pour les gens, c'est pour moi. Je fais comme ça, comme vous m'entendez. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Shahadu la ilaha illallah, Shahadu la ilaha illallah. Et comme ça. Jusqu'à ce que je termine la ilaha illallah, qu'est-ce que je fais? Je fais la iqama. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jusqu'à ce que je dise Fatham Salat, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Et je fais la prière même si je suis seul. Fadlan inshallah, prochain soir. Salam alaikum, le frère met la maison est loin. Exemple d'or à 80. Bon, j'ai pas compris. Allez, on passe, allez. Est-il correct de lever le doigt en prononçant la shahada? Puis soit au moment de l'adhan ou l'iqama. Qu'en est-il du mouvement correct du doigt pendant le tashahhud? Il n'est pas de la sunna de lever le doigt ni pendant l'adhan ni pendant l'iqama. Quand on fait le tashahhud, on dit shahadu la ilaha illallah, shahadu la ilaha illallah. Que ce soit dans l'adhan ou dans l'iqama, c'est une innovation de lever le doigt. C'est une innovation bid'a de lever le doigt quand on fait tashahhud dans le adhan ou bien dans la iqama. Car une chose pareille, si elle existait, ce serait le prophète alayhi salam qui serait le premier à la faire. Tant qu'il ne l'a pas faite, je ne connais pas le din mieux que lui. C'est pour ça que je ne peux pas inventer et je n'ai pas le droit d'inventer et c'est haram d'inventer. Et c'est haram d'inventer des choses. Donc le doigt, il reste normalement. Aucun doigt ne bouge. Aucun doigt ne bouge. Je fais l'adhan normalement sans lever aucun doigt. Et je fais la iqama normalement sans lever aucun doigt. Inch'Allah ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala a'lam. Faisons inch'Allah, prochain soual. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, est-il la sunna de faire deux rak'at lorsqu'on se lève du sommeil sans wudu? Ça c'est la première fois que j'entends dans ma vie qu'on peut faire deux rak'at sans wudu. Ça, c'est la première fois dans ma vie, depuis que je suis né jusqu'à cet âge. Je n'ai jamais entendu quelqu'un dire que on pouvait faire une prière sans wudu. Donc, c'est pas la peine, inshallah ta'ala, que je réponde à la première question. Vous avez dit qu'il est sunna pour l'imam du prêche du Jumu'ah, il est sunna de ne pas faire les deux rak'at à la mosquée et d'aller directement sur le mimbar. Ça, c'est ça la sunna. le vendredi, l'imam rentre directement à la mosquée et il monte directement sur le minbar. Quand je dis qu'il est sunnah de ne pas faire deux rak'at, ça veut pas dire, je veux pas dire par là que il vient tôt et il fait pas les deux rak'at. Non, s'il vient tôt, comme c'est maintenant l'habitude de beaucoup d'aïma, ils viennent à la mosquée tôt pour préparer ou la, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils font. Là, tu fais les deux rak'at. Tu n'as pas le droit de t'asseoir dans la mosquée sans faire deux rak'at. Mais si tu veux la vraie sunnah, tu arrives à la dernière minute, tu montes directement au minbar. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam habitait dans la mosquée elle-même. Il avait une porte qui donnait sur la mosquée. Il attendait que, khalas, c'est l'heure de la salat, il sortait directement, il montait sur le minbar. Il n'y a pas de sang? Comment se fait-il qu'il n'y ait pas de sang? Ibrahim n'écrit pas zéro, barakallahu fik, demande aux autres, jazakallahu khayran. J'ai toujours dit, n'écrivez pas zéro jusqu'à ce que vous soyez sûr. Naam. Fadal, inshallah, prochain soual, fadal. Ibrahim, cette fleur, c'est pour toi. Naam. Ziyan dit, assalamu alaikum wa rahmatullah, Cheikh. Que Allah Azza wa Jalla vous rétribue. Ok. Meilleure rétribution. Naam. Voyez. Ma question. Quand on parle après le Iqama, après la Iqama, on ne recommence pas. Naam, on ne la recommence pas. On peut dire directement Allahu Akbar. Je n'ai pas entendu quel cheikh avait dit cela. Pouvez-vous nous renseigner sur les adillah? Je répète ma question. Quand on parle après la Iqama, on ne la recommence pas. On peut dire directement Allahu Akbar. Je n'ai pas entendu quel cheikh avait dit cela. Naam. La réponse, le cheikh qui a dit cela, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam en personne. Il avait demandé à l'imam de faire l'iqama. Mu'addan. Quand le mu'addan a fait l'iqama, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a voulu rentrer dans la salat. Et voilà que quelqu'un s'est approché de lui et lui a commencé à lui dire des choses personnelles. En aparté. Yani lui, c'est tout. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont parlé, c'était une longue histoire. Peut-être divorce, peut-être je ne sais pas quoi, peut-être héritage. Le mohim, jusqu'à ce que certains sahaba, compagnons, radiallahu ta'ala, se sont endormis. Ensuite, l'histoire a été terminée. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit Allahu Akbar, il est rentré dans la prière. Il n'a pas dit au mu'adhan de répéter l'iqama. Il lui a pas dit, on répète l'iqama. Voilà le dalil qui prouve que on répète pas l'iqama. Naam. C'est pas la peine de la répéter, inshallah ta'ala. Faudra, inshallah, prochain soual. Il y a certaines personnes, entre l'iqama et le takbir al-ahram, ils font des doigts. Est-ce que cela est prouvé par la sunnah? Certaines personnes, entre l'iqama et le takbir al-ahram, ils font des doigts. Est-ce que cela est prouvé par la sunnah? Naam. Cela est prouvé. Et il y a un hadith sahih qui dit cela. Qui dit que le doigt entre l'iqama et entre le adhan et l'iqama, il dit que il est toujours exaucé. Il est exaucé. Maintenant, il dit entre l'iqama et takbir al-ihram. Non, il parle d'autre chose. Pardon. Hein. Celui-là, il parle de entre l'iqama et takbir al-ihram. C'est pas entre l'adhan ou l'iqama. Je ne connais pas quelque chose dans la sunna qui dit que entre l'iqama et takbir al-ihram on fait un doua. Je ne connais pas ça dans la sunna. J'ai dit que certains gens, quand ils entendent l'iqama, ils disent aqamah Allah wa adamaha. J'ai dit que cela n'était pas vrai, c'était bid'ah. Et je ne connais pas un dalil qui dit que il y a spécialement un doua entre quoi? Entre l'iqama et entre takbir al-ihram. Je ne connais pas un dalil en ce sens. C'est pour ça que je ne peux pas dire qu'il y a quelque chose, juste inshallah ta'ala, qu'on me ramène quelque chose qui se dit en cet endroit. on me ramène quelque chose qui se dit en cet endroit. Une fois j'ai entendu quelqu'un dire qu'on disait Allahumma qina adabak yawma tab'ath wa ibadak, mais je ne sais pas où ça se trouve, je l'ai jamais trouvé, c'est pour ça que je ne peux pas l'avancer bismillah subhanahu wa ta'ala. Naam. Prochain soual inshallah tafaddal. Est-ce qu'il est permis de prier sans faire l'adhan en faisant l'iqama directement? Naam, il est permis. Il est permis de prier sans faire l'adhan en faisant l'iqama directement. Je dis il est permis pour quelqu'un qui est seul. Là, je parle de quelqu'un qui est par exemple seul dans sa maison. Si c'est dans une mosquée, il est obligé de faire le adhan. Si c'est dans une mosquée, il est obligé de faire le adhan. Et s'il ne le fait pas, c'est quelque chose de grave. S'il dit je ne vais pas faire le adhan, il peut, comme j'ai dit, il peut être, yani, on peut le, comment on dit, yuqatel. Yuqatel jusqu'à ce qu'il meure pour qu'il doit faire le adhan, qui est sha'ira min a'zam sha'ir l'islam. Naam, sha'ira min a'zam sha'ir l'islam. Mais s'il est seul à la maison, il n'a pas fait l'adhan, il a fait directement l'iqama, ou bien une femme a fait directement l'iqama, c'est permis, inshallah ta'ala. Mais ils ont laissé le meilleur, ils n'ont pas fait le mieux. Ils n'ont pas fait le mieux. Mais si c'est à la mosquée, c'est interdit. À la mosquée, il faut faire le adhan. C'est quelque chose obligatoire. Maintenant, je réponds moi à une ou deux questions de mes questions, ensuite à vous. Quelqu'un qui dit que s'il est avec sa famille, non, s'il est avec sa famille, si le adhan il fait l'iqama, c'est très facile. L'adhan combien ça prend? Et l'iqama combien ça prend? Ça prend pas beaucoup de temps. Peut-être les deux vont prendre 2 minutes au maximum. Surtout s'il fait le adhan yani un peu vite yani. Car quand on le fait à voix basse, c'est pas comme on le fait à voix haute. Quand on le fait à voix basse. Maintenant ma première question pour quelqu'un qui lit. Est-ce que pour celui qui ne parle qu'en français ou là dans une autre langue, quelqu'un qui ne parle dans une autre langue que l'arabe, il dit est-ce que c'est permis ou est-ce interdit? Parler une autre langue que l'arabe, une autre langue que l'arabe, est-ce que c'est permis ou est-ce interdit? Bismillahirrahmanirrahim, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Il faudrait que tout le monde sache que Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre le Coran en arabe. Allah subhanahu wa ta'ala, le Coran, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'il a dit à Jibril, que Jibril a fait descendre au prophète sallallahu alayhi wa sallam en arabe. Quiconque veut bien comprendre l'islam, il doit apprendre l'arabe. Quiconque veut bien comprendre l'islam, il doit apprendre l'arabe. Maintenant, quand quelqu'un n'est pas dans le besoin de parler avec une autre langue, il doit parler en arabe. Quelqu'un il n'est pas dans le besoin. Par exemple, il parle avec des gens qui ne comprennent pas l'arabe. Celui-là, il est dans le besoin de parler avec une autre langue. Mais quelqu'un qui est dans un endroit où on ne parle qu'arabe, par exemple, il doit parler en arabe. Il doit parler en arabe. Et s'il change de langue, si quelqu'un change de langue et parle une autre langue, il doit se dire toujours que l'arabe, premièrement, c'est la meilleure langue, la langue du Coran. Et deuxièmement, je parle, il met dans l'intention, je parle cette langue pour des buts. Sinon, si je connaissais l'arabe, je n'aurais pas parlé cette langue. Mais ce qui est grave, c'est que certains qui parlent cette langue, une autre langue, sans le besoin, et ensuite, ils ajoutent hatta yani un accent spécial pour ressembler aux koufars qui parlent cette langue. Non, les koufars qui ont d'autres langues, certains yani les imitent même dans l'accent, yani ils essayent d'avoir l'accent comme leur accent, tout ça yani il faut qu'il se revoie, parce que une chose comme ça c'est interdit. C'est pour ça que je donne un conseil très important, par exemple à ceux qui vivent en Europe, surtout ceux qui ont des enfants, qui vont se marier, vont avoir des enfants, de ne pas oublier que les enfants, c'est quoi? avant d'être des enfants, tes enfants, ce sont des créatures que Allah subhanahu wa ta'ala a créées qui lui appartiennent. Comme Allah ta'ala a créé les cieux et la terre, il a créé les montagnes et les arbres, il a créé des personnes. Ces enfants sont des créatures de Allah subhanahu wa ta'ala. Ils sont un dépôt, un manège chez toi. Alors, attention, comme a dit le prophète, tu vas les mouler. Ils vont être ton moule. Est-ce que tu vas les mouler des juifs ou tu vas les rentrer dans un moule? Ils vont sortir des chrétiens, là, ils vont sortir des médjous. Comment? C'est toi, le père et la mère, qui allez les mouler. Maintenant, si tu ne vas lui apprendre que le français, toute sa vie, il ne va parler que le français. Et il va avoir beaucoup de difficultés à parler l'arabe. Et beaucoup de difficultés à apprendre le dîn. Beaucoup de difficultés. Donc, vous avez beaucoup de responsabilités pour celui qui vient en Europe et il ne veut pas apprendre à ses enfants l'arabe. Vous trouvez le couple, ne parle qu'en français. La hawla wa la quwwata illa billah. Le couple. Des fois, le père connaît bien l'arabe. Et la mère connaît bien l'arabe. Et il ne lui parle qu'en français. La hawla wa la quwwata illa billah. Et vous savez que la langue a un grand, grand rôle. Ils ne disent pas seulement c'est une langue, c'est rien. C'est pour véhiculer. Elle a un très grand rôle. Les Français, quand ils sont venus en Algérie, ils ont commencé par la langue. Tu détruis la langue arabe, il n'y a plus d'arabe. Ensuite, il y a le français. Quand il y a le français, tu commences à aimer quoi? La littérature de cette langue, l'histoire de cette langue, la aqida de cette langue, des gens qui parlent cette langue, le din des gens qui parlent cette langue, la façon de s'habiller des gens qui parlent cette langue, la façon de parler d'eux, et tu commences à aimer les gens de cette langue. Naam, ça a un grand rôle. C'est pour ça que je donne une nasiha, une grande nasiha, pour que demain, inshallah ta'ala, vous ne trouviez pas Allah subhanahu wa ta'ala en colère contre vous. Quiconque est un couple, il doit diviser la responsabilité entre le mari et son épouse. L'un des deux choisit. Il dit, par exemple, moi, je suis son père, je vais ne lui parler qu'en arabe. Avec moi, il n'y a aucun mot en français. Et toi, Malish, tu es sa femme, sa mère, toi, tu lui parles en français parce qu'on est dans un pays où il doit connaître le français. Il va parler aux gens, il va aller à l'école, mais il faut qu'il apprenne l'arabe. Alors, il choisit qui de nous parle mieux l'arabe. Si c'est moi qui la parle mieux, je ne vais parler avec lui qu'en arabe. Non, ou bien le contraire. Toi, tu ne parles plus arabe. Et moi, je suis pour lui apprendre deux langues. Et, alhamdoulilah, mashallah, premièrement, il sera bilingue. Et deuxièmement, devant Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdoulilah, tu es désengagé de la responsabilité. Car Allah ta'ala va te dire, c'est votre fils est très loin du dîn, n'a rien appris. Et pourquoi tu n'as pas? Qui va dire le fils? Je ne connaissais pas l'arabe, personne n'a appris l'arabe. Donc, il n'est pas en cette responsabilité. Donc, je veux que vous vous apprendrez. Et vous la lui apprendre, Le son est mauvais. Donc si le son est mauvais, c'est que je dois revenir. El Qalam, est-ce que le son est mauvais chez toi, El Qalam? Est-ce que le son est mauvais? Bon, ceux qui n'ont pas les points rouges vont m'écrire. 1 sur 5, 2 sur 5, 3 sur 5, 4 sur 5. Ça coupe un peu, hein? السلام عليكم ورحمة الله. في صوت ولا ما في صوت؟ طيب إبراهيم، C'est arrivé le message ou la naam, je répète. Alors, le message est passé. Barakallahu fikum. Naam. Astaghfirullah wa atubu ilayh. La hawla wa la quwwata illa billah al-'aliyyi al-'azim. Je ne sais pas pourquoi le son a changé comme ça, yani subitement. Naam. Juste les dernières phrases, si c'est possible. Naam, les dernières phrases. Inch'Allah ta'ala, Et dernière phrase, Abu Bilal, c'est trois, ça coupe des fois hein, jusqu'à maintenant. Ça coupe aussi maintenant, Abu Bilal. Alors dans ce cas, je n'ai plus de, je n'ai plus solution. Même si ça coupe maintenant, c'est que je n'ai plus de solution. Non. Moins qu'avant. Non. Sinon, je, on laisse inchallah à la demain on termine ou la mercredi inchallah. Aujourd'hui c'est quoi? Aujourd'hui c'est lundi. Non. On doit laisser inchallah ta'ala un mercredi. Qu'est-ce qu'on est aujourd'hui inchallah ta'ala? Demain, aujourd'hui c'est quoi? Non. Salam alaykoum wa rahmatullah wa barakatuh. Non. Je disais que c'était une grande responsabilité demain devant Allah subhanahu wa ta'ala de ne pas apprendre aux enfants l'arabe et qu'il fallait que quelqu'un des deux couples, quelqu'un du couple choisisse une langue et son père une langue. Naam. Sa mère lui parle en arabe et son père en français ou bien le contraire. Pour que premièrement il soit bilingue et deuxièmement devant Allah subhanahu wa ta'ala vous vous désengagez que vous avez fait votre possible pour lui apprendre la langue qui est l'instrument, qui est un instrument pour lui apprendre le din. Le din, naam. Deuxième question, toujours, en ce qui concerne, en ce qui concerne, il y a le son d'abord. Naam. Alhamdulillah. Yani, des gens qui demandent en ce qui concerne, Saddam, en ce qui concerne Saddam, qui a été yani, pendu hier ou l'avant-hier. Naam. Beaucoup de gens demandent yani, qu'est-ce qu'on doit faire, est-ce que ceci, est-ce que cela, est-ce qu'il est croyant, il est kafir, il est ceci, il est cela. Chouf Birti Sala, premièrement, j'aurais aimé entendre ce qu'ont dit les ulama. Je n'ai pas entendu ce qu'ont dit les ulama. J'aurais aimé dire ce qu'ont dit les ulama. Mais jusqu'à présent, je ne sais pas ce qu'ils ont dit. C'est pour ça que ce que je vais dire, c'est seulement mon avis. S'il est juste, c'est Alhamdulillah. S'il est faux, vous frappez avec contre le mur. Vous frappez avec mon avis contre le mur et vous prendrez de l'avis des ulama qui vont sûrement parler sur cet grand événement pour Allah subhanahu wa ta'ala. Je voulais dire que, premièrement, il ne faut pas oublier que, naam, premièrement, il ne faut pas oublier que, non, je ne suis pas en train de parler de ce qu'on dit les ulama de Wasmo sur à l'époque. Non, je suis en train de parler de l'événement qui vient de se passer hier, ce qu'on dit les ulama. Voilà ce que je voulais dire. Que vont dire les ulama sur cet événement, pas sur Saddam lui-même. Je reviens jeudi, bi'idnillah subhanahu wa ta'ala. Saddam, il ne faut pas oublier que dans son règne, quand il était dans son règne, il a fait des crimes odieux et horribles, c'est pas la peine de les dire, des milliers de crimes horribles et odieux, wala yadou billah. Ça, ah, c'est d'un côté. Tout le monde sait cela. Et c'est yani, vu à la télévision, c'est vu dans les vidéos, dans les journaux, dans des choses affreuses aux bébés, aux femmes, hatta le nucléaire. Il a même frappé des gens avec des avions nucléaires. La hawla wa la quwwata illa billah al-ali al-azim. C'est premièrement. Deuxièmement, quelqu'un qui est venu et à la dernière minute devant tout le monde, il a dit shahadu la ilaha illallah wa shahadu muhammadan abduhu wa rasuluhu. Moi je prends seulement avec la parole. Bon, pour moi il a dit cette phrase, il est un croyant pour moi. Maintenant, est-ce qu'il y a concordance avec ce qu'il a dit avec son cœur où il n'y a pas, ça ce n'est pas de mon ressort. Ça c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui sait qu'est-ce qu'il y a dans les cœurs et qui va lui dire c'est vrai ce que tu as dit ou là c'est faux, tu es un hypocrite. Moi je prends par l'apparent. L'apparent il a dit shahadu an la ilaha illallah ou shahadu anna muhammadan abdu wa rasulu. Et beaucoup disent que, ou dit t'es dans la prière qu'il a dit, qu'il a dit, puisque c'est donc l'effet de la tauba. Ensuite, autre chose, n'oubliez pas que les malheurs annulent beaucoup de péchés. Comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, il n'y a pas un malheur qui touche une personne sans qu'il lui enlève les péchés. Il a dit, même choka, même l'épine qui te pique, elle a dit quoi? Elle enlève le péché. Des fois, on a une petite épine dans le pied, on dit qu'est-ce que c'est que ça? Et justement, cette épine, elle va t'enlever un péché ou là, un certain nombre de péchés. N'oubliez pas que Saddam a eu beaucoup de mal. On lui a enlevé le règne. Le règne, c'est pas quelque chose de facile. On lui a enlevé des milliards. Il avait des milliards. Il avait des fusils en or, des voitures en or. On lui a enlevé le règne. On a fait quoi? On a tué ses enfants devant lui. Non, on a tué ses enfants devant lui. On a n'oubliez pas qu'il a subi beaucoup de malheurs qui ont peut-être annulé ses péchés. Nous on ne sait pas. Qui ont peut-être annulé ses péchés. Ensuite, après tout, c'était quelqu'un de sunna. Et les amis sont chiites. Les amis sont chiites. Là, c'est la loi, nos plus grands ennemis. Le plus grand, c'est les alliés des Américains. Ce sont les alliés de qui? Des Américains. Ce sont les chiites, comme a dit Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah. Il a dit, il n'y a pas eu, dans l'histoire de l'islam, il n'y a pas eu une guerre contre l'islam sans que les Tawafid ne soient pas. Dans toute l'histoire de l'islam, à chaque fois qu'il y a une guerre contre les musulmans, les chiites sont du côté des kuffars et non du côté des musulmans. La hawla wa la quwata illa billah al-ali al-azim. Donc les grands shayatins, ce qui sont chiites, les grands shayatins, ce sont les wahid. Pour eux, notre islam n'est pas le vrai islam, mais ceux qui connaissent, eux, ceux qui savent, ils ont tout fait le contraire. Tout ce qu'on fait, ils font le contraire. Wala hawla wala quwata illa billah al-ali al-azim. Naam, ça se coupe, je peux rien faire. Ça se coupe pour là, je peux rien faire. Hein. C'est pas de ma faute. Je lisais, Abu Bakr Siddiq, qui est cité dans le Coran, que c'est un compagnon. Ils disent de lui que c'est un kafir. La hawla wa la quwwata illa billah. Et l'oncle du prophète, que Hanala a dit un kafir, ils disent c'est un musulman. La hawla wa la quwwata illa billah. De toute façon, c'est un din, yani, qui est quoi? Qui est, yani, au contraire, la hawla wa la quwwata illa billah. J'ai posé une ou deux questions, t'aimes, inshallah. Lors de la salate, quelle est l'importance et l'intérêt des rangs bien serrés, bien alignés? Ce sont les dalils. Naam. Lors de la salate, le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait, Hadou bayna al-manakibi ou al-aqdam. Il faut pas, quand c'est pas bien aligné, il y a le shaitan qui rentre au milieu. Comme disait le prophète Sansom, il disait qu'il voyait le shaitan jouer, yani, dans les rangs comme ça, rentrer entre les jambes des gens, etc. C'est pour ça que il faut bien se serrer entre les rangs de façon à ce que nos chevilles touchent les chevilles des autres. Et notre tibia doit toucher le tibia des autres et nos épaules doivent toucher les épaules des autres qui sont à gauche et à droite. Mais quand on fait des rangs, on ne commence pas par les pieds, on commence par les épaules. Pourquoi ? Parce que le plus important, ce sont les épaules et pas les pieds. On commence par les épaules. Et pour les rangs, certains croient que on doit tous y aller avoir les orteils, les pieds, les doigts, les pieds, on doit tous les avoir, y aller, de façon à ce que ça soit aligné. Ça c'est faux. Pourquoi ? Parce que l'essentiel, c'est d'aligner la cheville avec la cheville. Et les gens, leurs pieds ont des différences. Celui-là, il chausse 45, celui-là, il chausse 38. Il y a une grande différence dans les pieds. C'est pour ça qu'on ne peut pas aligner avec les orteils. Certains mots. Certains mosquées, certains, ils mettent quelque chose comme ça pour que tu saches y aller où mettre les pieds. Ça, les ulama disent, ça rentre dans la bida. Pourquoi ? Parce que tu vas arranger, tu vas aligner mes orteils. Alors qu'il fallait qu'on aligne nos chevilles, c'est pas les orteils. Est-ce qu'il y a le son? Je sais pas si vous m'entendez. Est-ce qu'il y a le son? Du scotch, non. Certains mettent du scotch ou là ils mettent quelque chose comme ça. Tout ça, je dis ça, non. Tout ça, ce n'est pas on doit. Alhamdoulilah. Donc les délits, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala fait la salat sur ceux qui sont dans le premier rang. Le premier rang, c'est très important. Si les gens savaient l'importance du premier rang, ils seraient allés à la mosquée, même s'il faut, yani, habouin, même s'il faut aller, yani, à genoux. Et même, hadith a dit, même si vous devez faire le tirage au sort pour prendre le premier rang, faites-le. Tellement, le premier rang est important. Parce que Allah, en rampant, parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il fait la prière sur ceux qui sont, se trouvent dans le premier rang. Faire la prière d'Allah sur les gens, c'est lorsqu'il les cite devant les anges. Il dit, il les cite et il vante leur mérite. Il dit X, et par exemple, Allah, il a des vertus, il a des qualités. Donc c'est quelque chose de très important. Et Iznizdari, le jour de pluie, le mu'adhan, il dit une phrase dans le adhan pour que les prieurs restent chez eux pour prier. Quelle est cette phrase? Pouvez-vous dire la règle pour se lever pour les femmes? Pour les femmes, quand l'imam vient ou après, c'est autorisé. Je répète, pour la pluie, le mot adhan, il dit dans son adhan, il dit sallou fi rihalikum, sallou fi rihalikum, faites la prière dans vos maisons. Autrefois c'est des tentes, etc. Rahd, c'est l'endroit où on habite, on passe la nuit. Il dit sallou fi rihalikum. Quand il y a la pluie, c'est difficile d'aller à la mosquée, il y a un vent, etc. En ce qui concerne quand salat, on se lève quand on veut. Quand il commence à faire la ikhama, tu peux te lever à n'importe quel moment. Si tu veux, tu fais comme Anas, tu attends qu'il dise Qatram Salat pour te lever. Tu attends qu'il dise Qatram Salat pour te lever, si tu veux. Et bien, avant Allah, on s'enchaîne à la mercredi, parce qu'on n'entend plus. Donc, on se rencontre mercredi, Inch'Allah Ta'ala. Mercredi, Inch'Allah. Et Inch'Allah. شهادة أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. إن شاء الله تعالى نلتقي. طبق في كل جور نصم وجودي نصم لندي. نعم on se rencontre inshallah ta'ala.